les persécutions des premiers Quakers en Amérique, suite mais, comme alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Gall 429 Méridier et Amburden arrivent à Boston depuis Londres. Elles sont immédiatement emprisonnées et condamnées au bannissement. Amburden est renvoyée en Angleterre, Méridier rentre chez la Rhode Island. Extrait d'une lettre de Renwy Fell à Margaret Fell, ont amis dans le ministère, ressent un appel religieux à visiter la Nouvelle-Angleterre, leur difficulté à obtenir une traversée. Robert Foley, un ami, offre son petit navire à cet effet, son offre est acceptée, démarche de la société. Robinson, l'un des martyrs de la Nouvelle-Angleterre, écrit à Margaret Fell pendant la traversée, 5 des amis débarquent à New Amsterdam, aujourd'hui New York, les autres poursuivent vers Rhode Island, les lettres de John Copeland depuis Rhode Island. Pendant quelques mois, après le bannissement de Nicholas Hopshull, la colonie de Boston sembla être débarrassée des hérétiques Quakers. La loi qui avait été adoptée pour les en exclure, les dirigeants puritains et les ecclésiastiques espéraient avec complaisance qu'elle se révélerait efficace pour l'objet visé, et ainsi s'acheva l'année 1656. Mais cette période, si marquante dans l'histoire des Amis en Amérique, était à peine close que d'autres membres de la société mettaient le cap sur la terre interdite du Massachusetts, et dès le premier mois de 1657 probablement, Méridier et Anne Burden atteignirent la baie de cette colonie. Méridier était habitante de Rhode Island et avait effectué une visite en Grande-Bretagne, mais on ne sait pas clairement dans quel but. Pendant son séjour en Angleterre, elle fut convaincue des principes des amis et avait reçu un don pour le ministère. Anne Burden, semble-t-il, n'était pas ministre à cette époque. Elle avait auparavant vécu en Nouvelle-Angleterre, ayant été habitante de Boston ou de ses environs pendant 16 ans, mais son mari avait emmené sa famille en Angleterre et y était décédé. Elle vint donc maintenant à Boston afin de recouvrer certaines dettes dues à sa succession. Toutes deux avaient été des exilées antinomiennes du Massachusetts. Méridier et son mari, lors de leur bannissement, avaient cherché refuge dans la colonie libre de Rhode Island, tandis qu'Anne Burden et son mari étaient retournés dans leur patrie, pour y jouir de la liberté religieuse que les puritains trouvèrent sous le Commonwealth. Presque immédiatement à l'arrivée de Méridier et d'Anne Burden à Boston, en vertu des dispositions de la loi contre les Quakers, elles furent arrêtées sur ordre des magistrats et placées au secret, afin que personne ne pût les approcher. Lors de leur interrogatoire, Anne Burden plaida la légalité de ses affaires dans la colonie, mais la seule réponse à ses raisonnements fut qu'elle était une Quaker authentique et devait se soumettre à leurs lois. Après un emprisonnement de 3 mois, au cours duquel elle souffrit de maladie, elle fut embarquée pour être bannie. L'objectif du voyage d'Anne Burden depuis l'Angleterre se trouvant ainsi contrecarré par des dirigeants implacables, la sympathie des habitants au bon cœur de la ville s'éveilla en sa faveur. Certains s'employèrent à soutenir la veuve persécutée et ses enfants sans père, et rassemblèrent une partie de ses créances, en marchandises, pour une valeur d'environ 40 livres. Mais ces marchandises étant d'une nature peu adaptée au marché anglais, ils intercédèrent auprès des magistrats afin qu'on lui permît de les emporter à la Barbade, où elles se vendraient aisément. Cette demande humaine et raisonnable fut toutefois vaine. Le capitaine du navire fut contraint de la ramener en Angleterre, et, s'enquérant de qui il devait recevoir le paiement de son passage de retour, on lui conseilla de saisir une quantité suffisante de ses biens pour couvrir les frais. Mais, remarquant que ce n'était pas de son consentement qu'elle devenait sa passagère, il refusa de suivre cette recommandation. Les scrupules moraux des magistrats, émoussés par le fanatisme sectaire, n'étant pas aussi délicats sur la question du bien ou du mal que ceux dont le capitaine avait fait preuve, ils ordonnèrent immédiatement la saisie de biens de la prisonnière, à hauteur de 6 livres et 10 shillings, pour payer le prix du passage. Estimant que cela ne constituait pas un châtiment suffisant infligé à la veuve affligée pour avoir professé le cacrisme sur leur territoire, ils ordonnèrent ensuite qu'aucun du reste de ses biens ne fût embarqué. Ainsi, elle ne reçut aucune part des biens rassemblés pour elle, et, à l'exception de la petite somme de 6 shillings envoyée par un débiteur honnête, elle n'obtint aucune part des montants dus à la succession de son mari. La durée de l'emprisonnement de Méridier n'est pas précisée, mais son mari, qui n'était pas Quaker, ayant appris l'emprisonnement de sa femme, vint de Rhode Island pour la récupérer. Cependant, prêtres et dirigeants de Boston redoutaient tant l'influence Quaker qu'ils ne lui permirent pas de la ramener chez lui, avant qu'il n'ait fourni une caution garantissant qu'il ne l'hébergerait dans aucune ville de la colonie, ni ne permettrait qu'elle parle à quiconque durant le voyage. L'extrait suivant, tiré d'une lettre adressée par Henry Fell à Margaret Fell, contient quelques faits supplémentaires concernant la visite de Méridier et d'Anne Burden. Henry Fell à Margaret Fell Barbade, 19 du 12e mois, 1656 ma bien chère bien-aimée, dans le Seigneur Jésus-Christ, je m'attendais à repartir par le prochain navire, voyant la liberté de quitter ce lieu, et ne connaissant alors d'autre destination que l'Angleterre. Mais en vérité, à présent, le Seigneur en a ordonné autrement, et bien que cela fût contraire à ma propre volonté pourtant par sa puissance éternelle, j'ai été rendu disposé à tout abandonner à celui qui a donné sa vie pour moi. Le 9 jour du 11e mois, la parole du Seigneur me vint que je devais aller en Nouvelle-Angleterre pour y être un témoin pour lui. Ainsi j'ai été rendu disposé à offrir ma vie et tout, en obéissance au Seigneur, car sa parole était en moi comme un feu et comme un marteau, bien qu'alors extérieurement, il n'eût aucune apparence de pouvoir obtenir un passage, à cause d'une loi cruelle qu'ils ont faite contre la venue de tout ami en ces contrées dont la copie est si jointe. Mais pourtant j'ai été rendu confiant, et le Seigneur m'a dit d'attendre jusqu'à ce qu'un chemin me soit ouvert. Environ 14 jours plus tard, un navire arriva ici, qui se rendait en Nouvelle-Angleterre et avait atteint cette côte, mais les tempêtes furent si violentes qu'ils durent venir ici, jusqu'à ce que l'hiver là-bas fût presque terminé. Dans ce navire se trouvent deux amies, Anne Burden de Bristol et une Mary Dier de Londres. Toutes deux avaient autrefois vécu en Nouvelle-Angleterre et avaient été des membres expulsés de leurs églises. Mary voyage vers son mari, qui vit à Rhode Island, que les puritains appellent l'île de l'erreur, où ils bannissent ce qui diffère d'eux en jugement, et il est probable qu'Anne Burden y ait quelque affaire temporelle. Dans ce navire, le capitaine m'a permis de prendre passage, et le Seigneur l'a rendu assez disposé à me transporter, et il a dit qu'il s'efforcera de me débarquer sur quelque partie de la Nouvelle-Angleterre, hors de leur pouvoir et de la juridiction de ceux qui ont fait cette loi. Dans la juridiction du brevet de Plymouth, où le peuple n'est pas aussi rigide que ceux de Boston, il y a de grands désirs de vérité. Quelques-uns, à ce que j'entends, sont convaincus et se réunissent en silence en un lieu appelé Salem. Oh, vraiment, grand est le désir de mon âme d'être parmi eux, à cause de la semence, qui j'ai mis pour être délivré de cette servitude égyptienne. Je ne puis exprimer le désir de mon âme envers eux, ni l'amour qui se déverse chaque jour vers eux, car je vois, dans la lumière éternelle, que le Seigneur a une grande œuvre à accomplir dans cette nation. Et le temps se hâte et vient rapidement, où il élèvera son propre nom et sa puissance au-dessus de tous les païens qui ne le connaissent pas. Astérisque Henry, Fell astérisque il ne semble pas qu'Henry Fell ait pu atteindre la Nouvelle-Angleterre en cette occasion. Le navire qui ramenait Anne Burden sur les rivages de la Grande-Bretagne avait à peine levé l'ancre pour sa traversée de l'Atlantique que si des 8 amis, expulsés de Boston l'année précédente, crurent devoir tenter une nouvelle traversée vers la Nouvelle-Angleterre, étant fermement persuadés que le Seigneur les avait appelés à rendre témoignage à sa vérité en ces lieux, et ayant pleine assurance de foi qu'il les soutiendrait dans toutes les épreuves qu'il voudrait bien les laisser subir. C'était William Brand, Christopher Rold, John Copland, Sarah Gibbon, Mary Weatherhead et Dorothy Ward astérisque à peu près au même moment, 5 autres ressentirent une impression semblable de devoir religieux, à savoir Robert Hodgson, Humphrey Norton, Richard Doudney, William Robinson et Mary Clark. Astérisque les deux autres des 8 étaient Thomas Thurston et Mary Prince. Le premier visita de nouveau l'Amérique, et nous y ferons plus tard référence, mais la seconde ne semble pas avoir reçu d'autre appel, au service de son divin maître vers cette terre. Comme nous avons l'intention de donner de brèves notices sur la vie de ceux qui se rendirent sur le nouveau continent pour l'œuvre de l'Évangile, avant de quitter le sujet de la visite de Mary Prince et de ses compagnons, nous donnerons quelques détails la concernant. Mary Prince était habitante de Bristol et fut de celles qui furent convaincues par le puissant et baptisant ministère de John Cam et John Woodland lors de leur visite dans cette ville en 1654. Peu après sa convincement, elle fut appelée à travailler en parole et en doctrine. Cependant, nous n'avons aucun détail sur ses services comme ministre de l'Évangile jusqu'à sa visite à Boston en 1656. En 1660, elle voyagea largement sur le continent européen avec Mary Fisher. Durant les années 1663 et 1664, elle souffrit sévèrement, comme la plupart de ses coprofesseurs à Bristol, à cause de sa religion. En l'espace de ces deux années, elle fut emprisonnée dans cette ville à 3 reprises. Sa fille Anna, à peu près à cette période, s'unit par le mariage à Charles Marshall, médecin à Bristol, qui avait aussi été convaincu et qui, quelques années plus tard, entra également dans le ministère. Mary Prince mourut au 10e mois 1679. Dans le registre d'inhumation, elle est décrite comme une veuve de Castle Prussin, Bristol. L'acte de persécution de la cour de Boston, qui imposait de lourdes peines au capitaine de tout navire qui oserait débarquer des Quakers dans les limites de sa juridiction, était désormais connu en Angleterre, et les armateurs éprouvaient naturellement de la réticence à les prendre comme passagers. Il n'y avait donc guère de perspective immédiate que ces personnes dévouées puissent obtenir un passage vers la Nouvelle-Angleterre. Mais celui dont l'action est merveilleuse et le conseil excellent, et qui se plaît souvent à manifester sa sagesse et sa puissance à un moment, et d'une manière les moins attendues par l'homme aux vues courtes, préparait un moyen par lequel ses serviteurs pourraient aller de l'avant dans l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Robert Fowley, ami ministre de Burlington, dans le Yorkshire, marin de profession, avait à cette époque achevé la construction d'un petit navire, et pendant sa construction, il fut impressionné par la conviction qu'il devrait le consacrer à quelque usage en faveur de la cause de la vérité. Il fit d'abord voile avec son nouveau navire vers Londres, et, alors qu'il était dans ce port, il estima juste d'exposer les sentiments qu'il avait marqués à Gerard Robert, marchand de Watling Street. Gerard, qui était l'un des membres les plus actifs de la société pour prendre les dispositions nécessaires aux visites de ses ministres à l'étranger, ne tarda pas à reconnaître qu'une main providentielle avait conduit à leur entretien. À vue humaine, le navire était bien trop petit pour s'aventurer en sécurité sur les puissantes vagues de l'Atlantique, mais Gerard Robert et ses frères, ne doutant pas que c'était là le moyen prévu pour transporter le groupe vers la Nouvelle-Angleterre, l'affrétèrent à cet effet. Astérisque, astérisque, les dépenses entraînées par plusieurs de ses premières missions furent considérables, mais les services ayant été entrepris avec le plein assentiment de la société, les frais furent payés sur un fonds levé à cet effet, d'une manière semblable à la pratique de la société de nos jours. L'année suivante, celle où Robert Fowley fit voile avec la petite compagnie vers l'Amérique, la première réunion annuelle de la société se tint. Elle eut lieu à Scallows, à environ 3 milles de Skipton, dans le Yorkshire. Lors de cette réunion, la question des visites des amis, au-delà des mers, retint beaucoup l'attention et il fut convenu de recommander une collecte générale pour soutenir ses missions évangéliques. En exécution de cette décision, l'épître suivante fut publiée. À une réunion d'amis venant des comtés du nord de York, Lincoln, Lancaster, Chester, Nottingham, Derby, Westmoreland, Cumberland, Durham et Northumberland, à Scallows, le 24 du 4e mois, 1658. Entendu parler des grandes choses accomplies par la puissance de Dieu, dans de nombreuses nations au-delà des mers, où il a suscité plusieurs de nos chers frères et sœurs pour prêcher l'évangile éternel, par lesquels il a révélé le mystère de sa vérité, caché à travers les âges et les générations, lesquels se trouvent maintenant en terre étrangère, dans de grandes détresses et difficultés, et dans le péril quotidien de leur vie, nos entrailles s'émeuvent pour eux et nos cœurs sont remplis d'un tendre amour pour ces précieux de Dieu. Et nous en confions le soin à nos chers frères de Londres, Amos Todar, Gérard Robert, John Boulton, Thomas Hart et Richard Davy, pour ordonner et disposer de ce qui leur sera envoyé de notre part, pour pourvoir à ceux qui sont déjà partis, ou à ceux que le Seigneur pourrait pousser à partir vers quelque autre nation, dont nous sommes bien assurés du soin et de la fidélité. Et les amis ici présents doivent être diligents dans leurs divers comtés et lieux, afin que l'œuvre soit hâtée avec toute la promptitude convenable, d'après l'original, signé par de nombreux amis. Cet appel fut généreusement entendu et, compte tenu de la valeur relative de l'argent à cette époque, une somme importante fut réunie. Plus de 480 furent collectés, ce qui représente environ 200 000 dollars en 2008. Lors de l'Assemblée générale ou annuelle tenue à Skipton, le 25 jour du deuxième mois, 1660, une épître fut publiée contenant une recommandation pour une collecte semblable. Elle commence ainsi, « Chers amis et frères, nous ayant reçu des informations certaines de quelques amis de Londres, concernant la grande œuvre et le service du Seigneur au-delà des mers, en plusieurs parties et régions, comme l'Allemagne, l'Amérique, et beaucoup d'autres îles et lieux comme Florence, Mantoue, le Palatinat, la Toscane, l'Italie, Rome, la Turquie, Jérusalem, la France, Genève, la Norvège, la Barbade, les Bermudes, Antigua, la Jamaïque, le Suriname, Terre-Neuve, travers lesquels les amis sont passés au service du Seigneur, ainsi que divers autres pays, lieux, îles et nations. Collection Caton de manuscrits, ancien volume de lettres des premiers Quakers, copié par William Caton. Le fait qu'onze amis, dans le ministère, étaient sur le point de quitter leur pays natal pour les rivages de la Nouvelle-Angleterre, et dans des circonstances si particulières ne manqua pas, comme on peut aisément le supposer, de susciter un degré d'intérêt inhabituel dans la société, et l'on éprouva une profonde sollicitude pour que celui qui tient les eaux dans le creux de sa main fût avec eux et les fasse prospérer là où ils étaient envoyés. Le 1er du 4e mois 1657, Robert Fowley appareilla de Londres avec le groupe et, le lendemain, atteignit les Downs. Là, William Dewsbury, occupé à des travaux évangéliques dans le Kent, monta à bord pour leur rendre visite et put leur adresser une parole d'encouragement. Écrivant à Margaret Fell à peu près à cette époque, il évoque ainsi sa montée à bord, où William Dewsbury à Margaret Fell Kent, le 5 du 4e mois, 1657 « Chère sœur, j'étais aux Downs à bord du navire, avec les amis qui partent pour la Nouvelle-Angleterre, le troisième jour de ce mois. Ils étaient, selon leur mesure, hardis dans la puissance de Dieu. La vie s'élevait en eux. Quand je suis descendu, ils ont continué au nom et dans la puissance du Seigneur notre Dieu. Que sa présence éternelle les garde dans l'unité et dans la vie, et les fasse prospérer dans son œuvre, car beaucoup de chers enfants se manifesteront dans la puissance de Dieu, dans ces pays où ils désirent aller. Dans la puissance du Seigneur Dieu, adieu. William Dewsbury, alors qu'il descendait la Manche, le vent souffla rudement et l'on jugea prudent de faire escale à Portsmouth. Pendant qu'ils étaient en ce lieu, William Robinson, l'un des 11, adressa la lettre suivante à Margaret Fell. William Robinson à Margaret Fell, Southampton, le 6 du 4e mois, 1657, M. F. Chère sœur, mon cher amour te salue dans ce qui ne pense point de mal, ce qui était avant que les maux soient, dans lequel je demeure fidèle à celui qui nous a appelés et nous arme contre les traits enflammés de l'ennemi, même dans la crainte et la terreur du Tout-Puissant. Je te connais, et j'ai union avec toi, bien que loin de toi. J'ai jugé bon de te faire savoir que le navire qui porte les amis en Nouvelle-Angleterre est maintenant au mouillage dans le port de Portsmouth. Nous n'attendons qu'un vent favorable. Je n'ai encore aucune nouvelle des deux amis, l'homme et sa femme, dont tu m'as parlé lorsque j'étais avec toi à Swarthmore, au sujet de leur venue à Londres. Aussi ai-je pensé bon de te faire connaître les noms de ceux qui partent, au nombre de 10 dans l'œuvre du ministère, Humphrey Norton, Robert Hodgson, Doris Iwo, Christopher Rold, William Brand, John Copeland, Rich Dudney, Mary Weatherhead, Sarah Gibbon, Mary Clark. Le nom du capitaine du navire est Robert Fowley, un ami, ainsi, dans ce qui ne change point, je demeure William Robinson P. S. Robert Hodgson est avec moi en ce lieu, car nous sommes venus ici cet après-midi pour tenir une réunion, voyant que le vent est présentement contraire, mais nous avons l'intention, si le Seigneur le permet, de retourner au navire demain. Robert te rappelle son cher amour, à toi et au reste des amis, avec le mien aussi. Ils quittèrent Portsmouth le 11 du 4e mois, et après avoir une fois encore touché la terre anglaise, le petit bateau fut véritablement lancé sur le vaste océan. Durant la traversée, plusieurs événements d'un caractère intéressant se produisirent, détaillés dans un récit descriptif rédigé par Robert Fowley lui-même. Une copie manuscrite, portant l'aval de George Fox, est encore conservée dans les archives de la Société à Londres. Le récit, bien que long, est trop intéressant pour être omis dans ces pages. Le voici, relation véridique du voyage entrepris par moi, Robert Fowley, avec mon petit navire appelé le WO-12, mais accompli par le Seigneur, comme il le fit pour l'Arche de Noé, dans laquelle il enferma quelques justes et les débarqua sains et saufs jusqu'à la colline d'Arara. Le discours véritable est rapporté comme suit. Ce navire fut destiné à ce service dès le commencement, comme cela m'a souvent été manifesté, car il m'a été dit intérieurement plusieurs fois, « Tu ne l'as pas pour rien », et aussi la Nouvelle-Angleterre s'est présentée devant moi. De plus, lorsqu'il fut achevé, chargé et mis à la mer, contrairement à ma volonté, il fut conduit à Londres, où, parlant de cette affaire à Gerard Roberts et à d'autres, ils confirmèrent la chose de la part du Seigneur, il devait en être ainsi. Pourtant, en me mettant à raisonner, en laissant entrer tentation, difficulté et la perte de ma vie, de ma femme et de mes enfants, ainsi que la jouissance de toutes choses terrestres, cela m'abaissa jusqu'à la tombe et me laissa comme mort quant aux choses de Dieu. Mais par son instrument George Fox, je fus rafraîchi et relevé à nouveau, ce qui auparavant allait fort contre moi. J'aurais aussi volontiers accepté de mourir que d'y aller. Mais par la force de Dieu, je fus à présent rendu disposé à faire sa volonté. Oui, même les usages et les façons de la douane ne purent m'arrêter. Je fus encore assailli par l'ennemi, qui me prit mes serviteurs astérisque de sorte que pour ce long voyage, nous n'étions que 2 hommes et 3 garçons, outre moi-même. Astérisque Prest signifie enrôlé de force dans la marine anglaise. L'Angleterre avait à cette époque armé une flotte pour la Baltique afin, disait-on, d'arrêter les agressions du monarque suédois envers le Danemark. Le premier jour du 4e mois, appelé juin, je reçus à bord les serviteurs du Seigneur, qui vinrent avec une main puissante et un bras étendu sur eux, si bien qu'avec courage nous fîmes voile et arrivâmes aux Downs le 2 jour, où notre très cher William Dewsbury avec Michael Thompson monta à bord et nous en fûmes grandement rafraîchis. Et après nous avoir recommandés à la grâce de Dieu, nous partîmes au large. De nouveau, la raison entra en moi, et des pensées s'élevèrent en moi d'aller voir l'amiral et de porter plainte du manque de mes serviteurs, et pour obtenir une escorte, mais j'en fus retenu par cette main qui était mon aide. Peu après, le vent du sud souffla un peu fort, de sorte que nous dûmes entrer à Portsmouth, où l'on m'offrit, au choix, des hommes, selon les paroles de l'un des capitaines, si j'avais assez d'argent. Mais il dit que mon navire était si petit qu'il ne ferait pas le voyage avec lui. Plusieurs jours, nous y restâmes, durant lesquels les ministres du Christ ne furent pas oisifs, mais sortirent, ramassèrent du bois, allumèrent un feu et le laissèrent brûler. Plusieurs amis montèrent aussi à bord et nous visitèrent, ce qui nous rafraîchit. De nouveau, nous appareillâmes de là vers le 11e jour du quatrième mois et fûmes encore repoussés vers South Yarmouth, où nous débarquâmes et fîmes en quelque mesure la même chose. Nous rencontrâmes aussi trois navires assez grands qui se rendaient à Terre-Neuve, qui nous accompagnèrent sur environ 50 lieues, et auraient pu nous accompagner sur 300 s'ils n'avaient pas craint les navires de guerre. Pour les éviter, ils prirent le nord et nous laissèrent sans espoir d'aide quant aux choses extérieures. Pourtant, avant notre séparation, il fut montré à un Frey Norton, de bon matin, que ceux qui cherchaient notre vie étaient près de nous, et il m'appela et me dit « Ainsi dit le Seigneur, vous serez emportés comme dans une brume. » Aussitôt, nous vîmes un grand navire venir sur nous, et les trois grands navires furent très effrayés et virèrent de bord aussi vite qu'ils le purent. Dans cet intervalle même, le Seigneur Dieu accomplit sa promesse et frappa nos ennemis au visage par un vent contraire, à notre merveilleux rafraîchissement. Puis, après notre séparation d'avec ces trois navires, nous fûmes amenés à demander conseil au Seigneur, et la parole vint de lui. « Passez au travers et tenez votre route la plus directe, et ne considérez rien sinon moi. » Et il nous encouragea grandement à cela, nous faisant nous réunir chaque jour, et lui-même nous rencontra et se manifesta largement à nous. Ainsi les tempêtes ne nous empêchèrent de nous réunir que trois fois durant tout le voyage. La mer était ma figure, car si quelque mal s'élevait en moi, la mer au dehors s'élevait contre moi, et alors les flots battaient des mains, ce dont en son temps je pris note et en parlai à un Frey Norton. De plus, dans une vision de la nuit, je vis des ancres flotter sur l'eau, et aussi quelque chose d'un navire qui croisait notre route. Je vis cela s'accomplir dans notre réunion, car moi-même, avec d'autres, avions perdu les nôtres nos voies spirituelles, de sorte que, pendant un court temps, le navire courut comme sans gouvernail, ce qui fut ensuite, par la sagesse de Dieu, rétabli en meilleur état qu'auparavant. De plus, le 25e jour du même mois, au matin, nous vîmes un autre grand navire venir vers nous, qui de loin semblait être une frégate. Le navire nous fit signe de venir à lui, ce qui pour moi fut une grande croix car nous étions au vent d'eux, et il fut dit « Va lui parler, la croix est certaine, t'ai-je jamais manqué en cela ?» Et pour d'autres, il ne semblait y avoir aucun danger, ainsi nous le fîmes, et ce fut un marchand de Londres, par lequel nous renvoyâmes des lettres au pays. Il est aussi très remarquable que, lorsque nous étions depuis 5 semaines en mer, dans le navire, où les puissances des ténèbres apparaissaient avec la plus grande force contre nous, n'ayant parcouru que 300 lieues, un Frey Norton, entrant en communion avec Dieu, me dit qu'il avait reçu une réponse réconfortante, et aussi que, vers tel jour, nous aborderions en Amérique, ce qui s'accomplit exactement. Ainsi en fut-il tout le voyage avec les fidèles, qui furent portés bien au-dessus des orages et des tempêtes, quand le navire allait soit à droite soit à gauche, leurs mains se joignaient toutes comme une seule et dirigeaient sa route, si bien que nous avons vu et dit que nous voyions le Seigneur conduire notre navire comme un homme menant un cheval par la tête. Nous ne nous soucions ni de latitude ni de longitude, mais nous nous tenions à notre ligne, qui était et est notre chef, notre guide et notre règle, tandis que ceux qui se souciaient de latitude et de longitude échouaient. Le dernier jour du 5e mois 1657, nous arrivâmes en vue de la terre. C'était une partie de Long Island, bien contrairement aux attentes du pilote. De plus, pendant toute la traversée, notre inclination avait été de tenir le sud, jusqu'au soir précédant l'atterrissage. Alors la parole fut « Il y a un lion sur le chemin », à quoi nous obéîmes et dîmes, qu'il mette le cap au nord jusqu'au jour suivant. Après-midi, il y eut une impulsion à nous réunir avant l'heure habituelle, et il fut dit que nous pourrions regarder au dehors le soir. Et tandis que nous étions assis dans l'attente du Seigneur, ils découvrirent la terre, et nos bouches s'ouvrirent en prière et en action de grâce. Et quand le chemin fut ouvert, nous nous dirigeâmes vers elle, et voyant une crique, notre avis fut d'y entrer, mais la volonté de l'homme chez le pilote résista. Toutefois, dans cet état, nous avions appris à être contents, et nous lui dîmes que les deux voies étaient sûres. Maintenant, pour vous exposer brièvement l'ampleur de la sagesse, de la volonté et de la puissance de Dieu, ainsi, cette crique nous conduisit entre la plantation hollandaise et Long Island, vers quoi les mouvements de certains amis se portaient, ce qui, autrement, leur aurait été très difficile d'atteindre. Le Seigneur Dieu, qui les avait mus, les amena aussi au lieu désigné et nous guida sur notre route, selon la parole venue à Christopher Rold, « Vous êtes sur la route de Rhode Island. » Une petite barque dans la crique vint à notre rencontre. Ils nous reconnurent comme des étrangers à mesure que nous approchions dans notre canot. Comme ils parlaient anglais, ils nous renseignèrent et nous guidèrent. La puissance du Seigneur tomba fortement sur nous, et une parole irrésistible nous vint, « La semence en Amérique sera comme le sable de la mer. » Elle fut proclamée aux oreilles des frères, ce qui fit jaillir des larmes, avec plénitude de joie. Robert Hodgson, Richard Doudney, Sarah Gibbon, Mary Weatherhead et Dossie Wall se préparèrent à débarquer, et le lendemain, ils furent mis sains et saufs à terre dans la plantation hollandaise appelée New Amsterdam que nous arrivâmes, et comme c'était le premier jour de la semaine, plusieurs montèrent à bord, et nous commençâmes notre travail. Je fus requis de me présenter au gouverneur, et Robert Hodgson vint avec moi. Le gouverneur fut modéré tant dans ses paroles que dans ses actes. Astérisque lors de l'acquisition de la Nouvelle-Néerlande, après avoir perdu une guerre contre l'Angleterre et cédé New Amsterdam à l'Angleterre comme règlement de guerre, les Anglais changèrent le nom en New York en l'honneur du duc d'York, qui devint peu après le roi Jacques I. Robert et moi avions vu plusieurs jours auparavant, dans une vision, que le navire était en grand danger. Le lendemain, la vision s'accomplit. Il y avait un passage entre deux terres, appelé Helgat. Nous étions mouillés très commodément pour un pilote, nous entrâmes dans ce lieu, y fûmes forcés et y fûmes portés, ce dont je n'avais jamais entendu dire que quelqu'un eût fait auparavant. Il y avait tant de rochers des deux côtés du passage que je crois qu'une seule yard de plus aurait mis en péril la perte du navire et de la cargaison. Il y eut aussi un banc de poissons qui poursuivit notre navire et nous suivit de manière étrange, tout du long, tout près de notre gouvernail. Dans notre réunion, il me fut montré que ces poissons sont pour vous une figure de la manière dont les prières des églises montent vers le Seigneur pour vous et les autres de votre compagnie. Assurément, dans notre réunion, ce message me traversa comme de l'huile et me dit de me réjouir grandement. Robert Foley approuvé par George Fox, Voyage de R, foyer 1657. Il a déjà été déclaré que, des 11 amis qui traversèrent l'Atlantique dans le WO-12-5, à savoir Robert Hodgson, Richard Doudney, Sarah Gibbon, Mary Weatherhead et Dorsey Waugh, débarquèrent à New Amsterdam le 1er du 6e mois 1657. Cela se produisit 2 mois après leur départ de Londres. Le reste de cette petite troupe d'ouvriers de l'Évangile quitta New Amsterdam à bord du navire de Robert Foley le 3 du 6e mois et, traversant le détroit de Long Island, atteignit Rhode Island en toute sécurité. Pendant qu'ils s'y trouvaient, John Copland adressa la lettre suivante à ses parents en Angleterre, Rhode Island, le 12 du 6e mois, 1657 « Cher père et chère mère, mon amour vous salue, vous êtes tous les fidèles en Jésus-Christ qui est ma joie et en qui je me réjouis à présent. C'est pour vous faire savoir à tous que je suis à Rhode Island et en bonne santé, où nous sommes reçus avec une grande joie de cœur. Mais à présent, Christopher Hold et moi allons à Martha's Vineyard en obéissance à la volonté de notre Dieu, dont la volonté est notre joie. Un frère Norton est en ce moment à Rhode Island, Mary Clark attend de se diriger vers Boston, William Brant est du côté de Providence. Le Seigneur Dieu des armées est avec nous, le cri d'un roi est au milieu de nous. Le peuple craint notre Dieu, car sa bonté est vaste et grande, et atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Sa puissance nous a conduits tout du long, et j'ai vu sa gloire et je suis accablé par son amour. Ne vous inquiétez pas pour moi, car ma confiance est dans le Seigneur seulement, soyez vaillants pour la vérité sur la terre. La puissance du Seigneur m'a couvert de son ombre, et je ne crains pas l'homme, car ma confiance est dans le Seigneur, qui est devenu notre bouclier et notre pavois, et une récompense infiniment grande. 6 juin se trouve le récit du voyage tel que Robert Foley l'a rapporté, que vous pourrez lire comme vous le pourrez. Saluez-moi affectueusement auprès de mes chers amis, avec lesquels est ma vie, et que la puissance du Seigneur vous couvre de son ombre, ainsi puissiez-vous être préservés pour sa gloire. Amen, amen, tenez ferme dans le Seigneur. Nous sommes sur le point de mettre la voile pour le Vineyard, et ayant cette occasion, j'ai été libre de vous faire savoir, par le moyen d'un navire allant à la Barbade, comment nous allons, adieu. Je suis votre serviteur pour l'amour du Seigneur. John Copland chapitre V. Les Quakers furent envoyés pour rendre témoignage à la vérité, pour la même raison que le Seigneur dit à Paul, « Je t'envoie maintenant pour ouvrir leurs yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché, et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. » Acte 26, 17-19 W. Robinson quitte le Rhode Island pour le Maryland et la Virginie. Mary Clark se rend à Boston, est emprisonnée pendant 3 mois et fouettée. John Copland et Christopher Hall de visite Martha's Vineyard, sont bannis de cette île et vont à Sandwich. Plusieurs sont convaincus par leur ministère et ils sont arrêtés, envoyés à Plymouth, puis finalement bannis de cette colonie. Quelques remarques sur la prédication des amis dans les églises à clocher. Les colonies du Massachusetts et de Plymouth s'efforcent en vain d'influencer les autres. Copland essaie. Hall de quitte le Rhode Island pour le Massachusetts. Plusieurs sont convaincus par leur prédication à Salem, ils sont arrêtés et envoyés prisonniers à Boston, ils sont fouettés, plusieurs des colons devenus amis sont emprisonnés, Richard Doudney voyage au Rhode Island et au Massachusetts, à Boston il est emprisonné et fouetté, J. Copland C. Hold R. Doudney publie une déclaration de leur foi chrétienne, les dirigeants de Boston promulguent une loi plus sévère contre les amis, Les prisonniers y sont cruellement flagellés et leur libération, voyage et souffrance de Humphrey Norton en Nouvelle-Angleterre W. Brant et J. Copeland voyagent au Massachusetts et au Connecticut, les autorités de Plymouth adoptent une loi contre les amis. Plusieurs ministres de l'Évangile ayant maintenant débarqué en Nouvelle-Angleterre, il sera intéressant de suivre les directions qu'ils prirent respectivement dans la poursuite de leurs travaux religieux. William Robinson paraît avoir œuvré pendant quelque temps dans les limites du Rhode Island. Il voyagea ensuite vers le sud jusqu'au Maryland et à la Virginie, puis, après une absence de 2 ans, il revint en Nouvelle-Angleterre. Nous relaterons plus tard ses activités dans cette partie de l'Amérique. Mary Clark, à laquelle John Copeland fait allusion dans sa lettre comme se trouvant au Rhode Island, attendant d'aller vers Boston, arriva dans cette ville vers la fin du 6e mois. Les magistrats, ayant été bientôt informés de l'arrivée de Mary Clark, délivrèrent immédiatement un mandat pour son arrestation et, après l'avoir fait incarcérer, ordonnèrent qu'elle fût sévèrement fouettée. Cette peine fut exécutée avec une grande barbarie. 20 coups d'un lourd fouet à 3 lanières, assénés avec fureur, lui furent infligés. Pendant 3 mois, elle fut détenue prisonnière dans la prison de Boston, période durant laquelle elle souffrit beaucoup du froid. John Copeland et Christopher Rold, très peu de temps après avoir débarqué au Rhode Island, sentirent qu'il leur était demandé de visiter l'île de Martha's Vineyard, située à quelques lieues du continent, où ils débarquèrent le 16 du 6e mois. La plus grande partie de ses habitants, à cette époque, se composait d'Indiens de la race algonquine, parmi lesquels les Puritains avaient établi une mission pour les convertir au christianisme. Le chef de cette communauté était le fils du gouverneur de l'île. La classe à laquelle les travaux religieux des deux amis s'adressaient plus immédiatement étant les colons anglais de l'île, ils jugèrent juste d'assister à leur lieu de culte. Là, après avoir attendu tranquillement que Mayhew, le prêtre, eût terminé, l'un d'eux adressa quelques paroles à l'assemblée. La liberté ainsi prise offensa grandement, et les amis furent aussitôt poussés dehors par le constable. Ce traitement brutal ne les découragea pas de tenter une nouvelle fois, et l'après-midi, ils se réunirent de nouveau avec la congrégation. À cette occasion, ils eurent quelques disputes sur des points de doctrine, et on les laissa se retirer paisiblement. Le gouverneur, toutefois, partageant les préjugés contre les amis, résolut de débarrasser Martha's Vineyard d'eux, et en conséquence, le lendemain matin, emmenant un constable avec lui, il se rendit chez les deux étrangers et leur ordonna de quitter immédiatement l'île. Mais John Copeland et Christopher Rold, qui étaient venus, comme ils le croyaient, en obéissance à un appel divin et non selon leur propre volonté, répondirent que, dans la volonté de Dieu, ils demeuraient comme il ouvrait la voie. « C'est la volonté de Dieu, répliqua le gouverneur, que vous partiez aujourd'hui, et, ayant loué un Indien pour les conduire sur le continent, il ordonna aux amis de payer eux-mêmes le passage. Mais n'étant pas disposés à faciliter leur propre bannissement, et ne sentant pas que ce fût la volonté de leur divin maître qu'ils quittassent l'île, ils refusèrent de partir, ou de payer l'Indien qui avait été engagé pour les emmener. Ce refus surprit le gouverneur, et après avoir ordonné au constable d'obtenir de force la somme requise auprès des étrangers, il donna des ordres péremptoires aux indigènes de les emmener dans leur canoë. Les Indiens algonquins, toutefois, n'étant nullement pressés d'exécuter l'ordre du gouverneur contre la volonté des amis, et à un moment où le temps était tempétueux, les accueillirent pendant 3 jours avec une bonté et une hospitalité remarquées. Puis, le temps ayant changé, et les bannis sentant qu'il ne leur était plus demandé de rester sur l'île, les Indiens, à leur propre demande, se préparèrent à les faire traverser. Avant de quitter l'île, les amis offrirent de rémunérer les indigènes pour leur bonté. Mais ces pauvres gens, mus par la générosité de leur cœur, agissant davantage en accord avec l'esprit du christianisme que ceux qui avaient coutume d'être leurs maîtres, refusèrent de recevoir toute récompense. « Vous êtes des étrangers, répondirent-ils, et Jéhovah nous a appris à aimer les étrangers. » Un langage si simple et si touchant, dans la bouche d'un Indien d'Amérique du Nord, était une cinglante réprimande contre le bigotisme et l'intolérance qui marquaient la conduite de leur maître hypocrite, ministre de la lettre, qui parlait du Seigneur des lèvres, mais dont le cœur et les actes ne suivaient pas. John Copeland et Christopher Rold abordèrent sur la côte du Massachusetts le 20 du 6e mois 1657 et se rendirent à la ville de Sandwich. Leur arrivée en ce lieu fut accueillie avec satisfaction par beaucoup qui cherchaient sincèrement les richesses célestes, mais qui étaient depuis longtemps accablés par un ministère sans vie et des formes religieuses mortes. À ceux-ci, dans l'autorité et la vie de l'Évangile, les deux amis purent offrir la parole de consolation et d'encouragement. Mais la ville de Sandwich comptait aussi des partisans de l'intolérance religieuse, et une agitation considérable s'ensuivit lorsqu'on sut généralement que deux Quakers anglais étaient arrivés parmi eux. Grand fut le remue-ménage et le bruit de la ville tumultueuse, remarquèrent-ils, oui, tout était en émoi, entendant que nous, qu'on appelait d'un tel nom que Quakers, étions venus dans ces parages. Un grand feu s'alluma dans le cœur de Beaucoup et brûla au-dedans d'eux, si bien que, dans sa chaleur, les uns disaient une chose et les autres une autre, mais la plupart ne savaient pas ce qui se passait. Le séjour de John Copland et Christopher Old à Sandwich fut bref, et de là ils se rendirent à Plymouth. Ici, comme à Sandwich, leur présence semble avoir causé beaucoup de consternation, surtout parmi les dirigeants et les ecclésiastiques du lieu. Alors qu'ils étaient à l'auberge, quelques personnes, désireuses de s'assurer du fait que des ministres Quakers étaient réellement arrivés, vinrent et eurent avec eux une longue dispute, et, constatant qu'ils appartenaient à la secte hérétique, leur dirent qu'on ne pouvait leur permettre de demeurer dans les limites de cette colonie. Les amis, toutefois, sentant qu'il leur était demandé de retourner à Sandwich, déclarèrent franchement au magistrat qu'ils ne pouvaient quitter la colonie avant d'avoir de nouveau visité cette ville. Ils retournèrent cette nuit-là, sans être inquiétés, à leur logement. Mais le lendemain matin, ils furent arrêtés et conduits devant les magistrats. Lors de leur interrogatoire, on leur posa de nombreuses questions, mais comme il n'y avait aucun motif de les envoyer en prison, ils furent relâchés, avec des ordres exprès du tribunal de quitter leur colonie. Le lendemain matin, ils partirent pour Sandwich, mais n'avaient pas parcouru une grande distance qu'ils furent rattrapés et arrêtés par un constable qui, ayant ordre de les empêcher de voyager dans cette direction, les conduisit à 6 000 vers le Rhode Island, puis les laissa. Cette interruption de leur route ne les détourna cependant pas de tenter d'atteindre Sandwich. Les prêtres de là, alarmés du retour des amis après quelques jours, persuadèrent la magistrature locale de les faire arrêter et reconduire à Plymouth, où ils furent de nouveau interrogés en présence du gouverneur. Bien qu'aucune infraction à la loi ne fût prouvée contre eux, on leur enjoignit néanmoins de partir de la colonie. Sentant que le service qui leur était demandé dans cette partie de la Nouvelle-Angleterre n'était pas accompli, ils firent savoir au gouverneur qu'ils ne pouvaient accéder à sa demande et qu'ils avaient l'intention de retourner à Sandwich. Il semble que leur ministère évangélique avait contribué à convaincre beaucoup de personnes, en ce lieu, des principes des amis, circonstance qui augmenta l'alarme des prêtres, lesquels exercèrent alors toute leur influence pour obtenir leur bannissement. Cet appel pressant fut efficace et le gouverneur, pour les satisfaire, délivra un mandat d'arrêt contre les amis, comme personnes extravagantes et vagabonds, afin qu'ils fussent amenés devant lui à Plymouth. Une copie du mandat, en vertu duquel ils étaient ainsi privés de leur liberté, fut demandée et refusée. William Newland, dans la maison duquel s'étaient tenues les réunions des nouveaux convaincus, soutint qu'il était illégal d'incarcérer les étrangers sans accéder à leur demande de produire un mandat. Le résultat de ces efforts en faveur des prisonniers fut une sévère réprimande et une amende de 10 shillings. Les prisonniers furent de nouveau traduits devant la cour à Plymouth et les magistrats, poussés par les prêtres, leur dirent qu'il existait une loi leur interdisant de demeurer dans cette juridiction. Les amis répondirent qu'ils ne pouvaient promettre de partir. Le mandat d'expulsion suivant fut alors délivré, accompagné d'une menace du tribunal. S'ils revenaient, ils seraient fouettés comme vagabonds au sous-maréchal de la juridiction de Plymouth, attendu qu'il y ait eu deux personnes extravagantes, se professant Quakers dans la ville de Plymouth, lesquelles, conformément à l'ordre, ne peuvent être autorisés à demeurer dans l'étendue de cette juridiction. Vous êtes donc, au nom de Son Altesse, le Lord Protecteur d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, requis et commandé, des réceptions des présentes, de conduire les dites personnes, Christopher Old et John Copland, jusqu'aux limites extrêmes de notre juridiction. Et n'y manquez pas, à vos risques et périls. Daté à Plymouth, le 31 août 1657, le sous-maréchal, s'acquittant de sa mission, les conduisit sur 50 milles en direction du Rhode Island, puis les remit en liberté, et les amis atteignirent bientôt ce refuge des persécutés. Au cours de cette histoire, et particulièrement dans sa partie consacrée à la Nouvelle-Angleterre, on rencontrera plusieurs exemples d'amis étant entrés dans les lieux publics de culte. L'un d'eux a déjà été mentionné dans le récit précédent des services religieux de C. Rold et John Copland. Certains auteurs modernes ont, sans le mériter, jeté beaucoup de blâme sur les premiers Quakers pour ces actes de dévouement. Nous disons sans le mériter, parce que la pratique consistant pour des particuliers à s'adresser à la congrégation après que le ministre avait terminé son sermon n'était pas rare sous le Commonwealth et n'était nullement particulière aux amis. Le sujet présente un grand intérêt en ce qu'il touche au caractère de nombreux membres éminents de la société lors de ses débuts, tant dans ce pays qu'en Amérique, et dans l'espoir que les remarques suivantes contribueront à dissiper le blâme injustement entretenu à cet égard, nous les proposons. Il est généralement admis que l'Église chrétienne, aux jours apostoliques, ne reconnaissait pas un individu comme ministre désigné de ses assemblées religieuses, mais que tous ceux qui étaient présents et sentaient un appel divin à s'adresser à l'assemblée avaient la liberté de le faire. Vous pouvez tous prophétiser, disait Paul à l'église de Corinthe, un à un, afin que tous apprennent et que tous soient consolés. Et c'est pourquoi, frères, poursuit-il, recherchez le don de prophétie. La pratique originelle de l'Église chrétienne à cet égard s'accordait avec les usages des synagogues juives, où il était d'usage que des personnes n'exerçant aucune charge ni n'ayant aucune nomination s'adressent à l'assemblée. Ainsi trouvons-nous Paul et Barnabas prêchant aux Juifs dans leur synagogue à Salamine, et Paul, tant à Corinthe qu'à Éphèse, entrant dans la synagogue et discutant avec eux. À mesure que l'Église chrétienne s'éloigna de sa pureté et de sa simplicité primitive, cette liberté individuelle fut supprimée. Mais à quelle période précise de son histoire la restriction eut lieu, il n'est pas aisé de le déterminer. Plusieurs allusions à ces exercices se rencontrent dans les écrits des pères du 1er siècle, et nous les voyons aussi mentionnés vers la fin du IIe siècle. Justin Martyr, dans son dialogue avec Tryphon le Juif, en l'an 183, mentionne que les dons de prophétie étaient exercés tant par des hommes que par des femmes. Ils sont également évoqués par Irénée, évêque de Lyon, en l'an 178. Nous entendons « beaucoup de frères dans l'Église, remarque-t-il, qui sont doués de dons prophétiques, qui parlent par l'Esprit en toutes sortes de langues, qui mettent au jour les secrets des hommes à de bonnes fins et qui déclarent les mystères divins. » Pendant la longue nuit d'apostasie qui suivit, la liberté du ministère évangélique fut remplacée par l'ordination et l'intervention humaine, et il ne semble pas que Lude et ses contemporains réformateurs aient été éclairés sur cet évident abandon du principe chrétien. Parmi les groupes dissides, toutefois, qui surgirent peu après la Réforme, on admit de nouveau la liberté pour tout membre de l'Église qui se sentait divinement appelé à s'adresser à la congrégation. Les églises baptistes et indépendantes de Grande-Bretagne, ainsi que les pères pèlerins de la Nouvelle-Angleterre, reconnurent l'exemple primitif. Dans un ouvrage intitulé « De true constitution particular visible church », publié en 1642 par John Cotton, pasteur puritain de Boston au Massachusetts, il décrit ainsi le degré de liberté à leur accorder. Là où il y a plusieurs prophètes comme pasteurs et docteurs, ils peuvent prophétiser deux ou trois, et si le temps le permet, les anciens peuvent appeler tout autre des frères, soit de la même église, soit de n'importe laquelle, à dire une parole d'exhortation au peuple. Et pour une meilleure édification. Les baptistes, en 1643, s'expriment ainsi sur le sujet. Bien qu'il incombe aux pasteurs et aux docteurs des églises d'être assidus à prêcher la parole en vertu de leur charge, néanmoins l'œuvre de prêcher la parole n'est pas si exclusivement confinée à que d'autres, également doués et rendus aptes par le Saint-Esprit, et approuvés étant par des voies et moyens légitimes, dans la providence de Dieu appelés à cela, ne puissent l'accomplir publiquement, ordinairement et constamment, pourvu qu'ils s'y consacrent. Les indépendants anglais, remarque Robert Barclay, vont même jusqu'à affirmer que tout frère doué, comme ils les appellent, s'il se trouve qualifié, peut instruire, exhorter et prêcher dans l'Église. Pendant les guerres civiles au temps de Charlier, il n'était pas rare que des laïcs et même des soldats prêchent dans les lieux publics de culte avec l'appui du pouvoir civil. Ce John Cheek, lorsqu'il était au shérif de l'Oxfordshire, prêcha à l'université d'Oxford, revêtu de sa robe de shérif et de la chaîne d'or de sa charge. Les presbytériens rigoristes d'Écosse, toutefois, n'admirent jamais cette liberté, et pendant la campagne victorieuse de Cromwell dans ce pays en 1650, les ministres écossais exprimèrent leur mécontentement à son égard parce qu'il ouvrait les portes de la chaire à tous les intrus, à quoi il fit cette réponse mémorable : « Nous regardons les ministres comme des auxiliaires de la foi du peuple de Dieu, non comme des seigneurs sur celle-ci. J'en appelle à leur conscience, quiconque nie leur doctrine ou s'en écarte n'encourra-t-il pas le blâme d'être un sectaire ? Et qu'est-ce donc sinon refuser aux chrétiens leur liberté et s'arroger la chair infaillible? Ou trouvez-vous dans l'Écriture que la prédication soit exclusivement votre fonction? Qu'une approbation des hommes comporte de l'ordre et puisse être bonne, soit, mais celui qui n'a pas mieux que cela n'a rien du tout. J'espère que celui qui est monté en haut pourra donner ses dons à qui lui plaît, et si ses dons sont le sceau des missions, n'êtes-vous pas envieux, puisqu'Eldad et Medad prophétisent. Vous savez qui nous a dit de rechercher ardemment les meilleurs dons, mais surtout afin que nous prophétisions. Ce que l'apôtre explique comme étant de parler pour l'instruction, l'édification et la consolation, dont ceux qui ont été instruits, édifiés et consolés peuvent le mieux dire la force et l'effet. Or, si ceci est une preuve, prenez garde de ne pas envier, pour votre propre bien, de peur d'être coupable d'une faute plus grande que celle que Moïse reprocha à Josué lorsqu'il envieux pour lui. En vérité, vous vous trompez par méprise des Écritures. L'approbation est un acte de convenance par rapport à l'ordre, non de nécessité, pour donner capacité à prêcher l'Évangile. Votre prétendue crainte que l'erreur en résulte ressemble à celle d'un homme qui voudrait empêcher tout le vin d'entrer dans le pays, de peur que les hommes ne s'enivrent. On trouvera injuste et insensée la jalousie qui consiste à refuser à un homme la liberté qu'il a par nature, sur la supposition qu'il pourrait en abuser. Qu'il en abuse alors jugé. Et répondant à la plainte du gouverneur selon laquelle des hommes ayant des occupations séculières avaient usurpé la charge du ministère, au scandale des églises réformées, il demande « Êtes-vous troublé que Christ soit prêché ? Cela scandalise-t-il les églises réformées, et l'Écosse en particulier, est-ce contre l'Alliance ?» Qu'on renonce à l'Alliance si c'est ainsi. Je pensais que l'Alliance et ses hommes auraient voulu que quiconque dise du bien du nom de Christ, sinon, ce n'est pas une alliance approuvée de Dieu, ni l'Église que vous mentionnez l'épouse de Christ ***, lettres et discours de Cromwell, par Thomas Carlyle vol, IP 61. C'est à l'époque du Commonwealth que la Société des Amis surgit en Angleterre, époque non seulement de grande effervescence dans le monde religieux, mais aussi de grande instabilité dans l'État. Les royalistes avaient été vaincus par les parlementaires, et le puritanisme était en plein essor. Les puritains, toutefois, étaient loin d'être unanimes dans leur vue politique, et ils divergeaient plus encore sur les questions de religion. Les presbytériens et les indépendants formaient les principaux partis de la coalition, et tandis que d'un commun accord, ils abolirent l'épiscopat, une rivalité les opposait quant au gouvernement ecclésiastique qui devait le remplacer. Les presbytériens firent de grands efforts pour faire reconnaître leur forme, mais celle-ci fut fermement et victorieusement combattue par les indépendants. L'intention de nombre de dirigeants au Parlement était de n'admettre aucune église établie, mais de laisser chacun embrasser la secte qui lui convenait le mieux et de soutenir les ministres qui l'approuvaient. En 1653, le Parlement alla jusqu'à examiner l'abolition des fonctions cléricales comme ayant un rôle de papisme et la suppression de la dîme astérisque que beaucoup de membres qualifiaient de relique du judaïsme. Les presbytériens s'opposaient résolument à ces vues, mais si fort était le sentiment contre l'affectation de la dîme au clergé que dans une chambre de 111 membres, 43 votèrent contre une telle affectation, bien que Cromwell, en cette occasion, eût fait pencher tout le poids de son influence du côté presbytérien ***. Après l'abolition de l'épiscopat, la liturgie fut remplacée en 1645 par une autre forme de culte, appelée le directoire, qui resta en usage jusqu'à la Restauration. Astérisque extrait du journal de George Fox Cromwell avait promis avant la bataille de Dunbar que, s'il était victorieux de ses ennemis, il abolirait la dîme, sinon qu'on le roule dans sa tombe avec infamie. Mais après que le Seigneur lui eut donné la victoire et qu'il devint le chef du pays, il confirma les anciennes lois selon lesquelles, si les gens ne payaient pas la dîme, ils seraient contraints de payer le triple, sur décision de deux juges de paix avec deux témoins. Mais quand le roi revint, on déterra Cromwell de sa tombe, on le pendit, on lui coupa la tête, puis on exposa sa tête au bout d'une pique à Westminster Hall, on l'enterra de nouveau à Tyburn, où il fut roulé dans sa tombe avec infamie. Quand je le vis pendu, je vis que ses paroles étaient justement retombées sur lui. ***, journal de Burton, vol, IP 3. Le directoire n'était pas une forme de dévotion absolue, mais ne contenait que quelques directives générales à l'intention des ministres sur la prière publique et la prédication, et d'autres aspects de leurs fonctions, leur laissant un pouvoir discrétionnaire pour remplir le temps vacant. Alors qu'existait cette réglementation générale quant à la forme du culte, les chaires étaient occupées diversement par toutes sortes de professants. Des prêtres indépendants et presbytériens, et quelques prêtres baptistes, observe George Fox dans son journal en 1655, s'étaient introduits dans les églises à clocher, et maintenant que les épiscopaliens avaient été chassés, on disait qu'ils chassaient un bénéfice haute rémunération, comme les corbeaux après une brebis pourrie. Éclairés qu'étaient les premiers Quakers sur la question du ministère et du culte, ils considéraient avec tristesse la routine de forme et de cérémonie sans vie qui prévalait parmi les diverses classes de la communauté religieuse. Une conviction forte et profonde s'imposait à leurs esprits. Les systèmes religieux dominants étaient essentiellement opposés à la religion pure et spirituelle du Christ. Ils n'en étaient pas moins persuadés, et faut-il ajouter, pas pour des raisons moins solides, que John Huss ou Martin Lloyd ne l'étaient du caractère antichrétien de l'Église romaine. Ils se croyaient appelés ***, à témoigner, au nom du Seigneur, contre un système qui renfermait un si funeste mélange d'inventions humaines, essentiellement de superstitions. ***, les premiers Quakers étaient des hommes et des femmes qui avaient crucifié leur esprit égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi, incluant la destruction de leur esprit charnel, recevant un cœur et un esprit nouveau de l'esprit de vie. Ils reçurent l'ordre de prophétiser, le témoignage du Seigneur, Et le dragon Satan s'irrita contre la femme, la véritable Église, et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage, l'esprit de prophétie de Jésus-Christ. Actes 12, 17. Lorsque les premiers Quakers sortirent prêcher parmi leurs semblables les doctrines spirituelles et primitives de l'Évangile, ils usèrent fréquemment de la liberté accordée au jour du Commonwealth de s'adresser aux congrégations dans les églises à clocher. Dès 1648, George Fox prêcha dans ces lieux. « Je fus poussé, observe-t-il à cette date, à aller dans plusieurs tribunaux et églises à clocher à Mansfield et ailleurs, pour les avertir de cesser l'oppression et les serments, et de se détourner de la tromperie vers le Seigneur, et d'agir avec justice. » Dans les deux années suivantes, il mentionne également avoir prêché dans des églises à clocher. En 1651, il rapporte plusieurs exemples de ce service. À Beverley, il écrit « Je montai à l'église à clocher où un homme prêchait. Lorsqu'il eut fini, je fus poussé à lui parler et au peuple dans la puissante puissance de Dieu, et je les tournai vers leur maître, Christ Jésus. L'après-midi, j'allai à une autre église à clocher à environ 2000. Quand le prêtre eut fini, je fus poussé à lui parler et au peuple très longuement. Les gens furent très aimants et auraient voulu que je revienne un jour de semaine prêcher parmi eux. À Malton, le prêtre souhaita qu'il montât en chaire, mais ayant une objection aux chaires, il refusa et s'adressa à la congrégation depuis un endroit moins en vue, et ayant eu une large occasion parmi eux, il partit en paix. À Pickering peu après, il eut une occasion semblable. George Fox, lors de sa première visite à Swarthmore, alla à l'église à clocher d'Ulverstone un jour de lecture ou de jeûne, mais il n'entra pas, dit Margaret Fell, avant que le peuple fût rassemblé, moi et mes enfants y étions depuis longtemps. Et tandis qu'il chantait avant le sermon, il entra, et lorsqu'ils eurent fini de chanter, il se leva sur un siège ou un banc, et demanda qu'on lui donnât la liberté de parler, et celui qui était en chaire dit qu'il le pouvait. D'Ulverstone, il alla aux églises à clocher d'Aldenham et de Ramsid, où il s'adressa aussi aux congrégations. En ce dernier lieu, le prêtre ayant informé le peuple de la visite de G. Fox, un grand nombre assista. Il mentionne également avoir prêché dans plusieurs autres églises à clocher la même année. Astérisque dans son journal, Fox rapporte « Lorsque j'arrivai au sommet d'une colline d'où l'on voyait la ville, je vis la grande église à clocher, et le Seigneur me dit « Tu dois aller crier contre ce grand idole lointain astérisque et contre les adorateurs à l'intérieur. » Le Seigneur désignait le bâtiment d'église, l'église à clocher, comme une grande idole. Une idole est quelque chose que les gens vénèrent, quelque chose dont ils sont fiers. Le temple de Jérusalem fut le seul temple que Dieu ait jamais voulu ou commandé. Les bâtiments d'église, cathédrales et autres monuments à l'orgueil des hommes ne sont pas voulus par Dieu et sont une abomination à ses yeux, car le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Actes 7, 48-9. Il souhaite habiter en vous avec Christ dans son royaume glorieux, après que vous avez été purifiés. Voir temple pour en savoir plus. En 1604, lorsque les amis visitèrent Londres pour la première fois, ils profitèrent souvent de ces occasions. Le dernier premier jour sauf un, observe. En 1654, j'étais dans une église à clocher le matin, et j'eus pleine liberté de dire ce que j'avais à dire, puis je passai à notre réunion l'après-midi, à peu près à la même date, F. Haugel écrit, j'allais vers Edward Burroughs, qui était allé à Lombard Street en une église publique à clocher, où viennent la plupart des tenants d'hautes notions de la ville, et je le rejoignis avant que le prêtre eût fini, et après qu'il eut cessé, Edward se leva sur un siège et parla d'une voix forte, et avec beaucoup de puissance, et tout était calme et silencieux. Et il parla environ une heure, et le peuple était très tranquille, et ensuite je parlai, nous déchargeâmes notre conscience et nous nous en allâmes en paix. L'année suivante, lorsque Richard Robeson visita les comtés de Lay, il prêcha occasionnellement dans des églises à clocher. À une occasion, il dit qu'il resta toute la journée dans l'église à clocher avec le peuple, et ce même jour, remarque-t-il, James Pownell était dans une autre église à clocher, où le prêtre lui permit de parler. Il est également remarquable que John Bunyan, qui était baptiste, tint des controverses avec les amis dans l'église à clocher de Bedford. Le fait que les premiers Quakers soient entrés dans les lieux publics de culte à l'époque du Commonwealth est une circonstance qui a été fort mal comprise et grandement dénaturée. Pour ces actes de dévouement, ils ont été calomniés comme perturbateurs des assemblées religieuses et comme attentant à la paix et à l'ordre des églises. Cette appréciation s'est sans doute formée en référence à des usages plus modernes, mais juger la conduite des amis sur ce point à la lumière des circonstances actuelles serait extrêmement erroné. En prêchant dans les lieux de culte nationaux, ils ne faisaient que profiter d'une liberté commune. Dans une période d'extraordinaire effervescence religieuse astérisque, il existait de nombreuses autres réunions religieuses en ce temps-là, mais les amis ne s'immiscèrent dans aucune d'elles. Certains soutiendront probablement que le fait qu'ils aient été si sévèrement punis pour avoir persévéré dans cette pratique peut être invoqué à l'appui de son irrégularité. Mais on peut répondre que la prédication des amis, presque partout à cette époque, que ce fût dans des églises à clocher ou des maisons privées, à l'intérieur ou à l'extérieur, attirait également la rigueur de la vengeance ecclésiastique. Ce n'était pas, en réalité, parce que les amis prêchaient dans ces lieux, mais bien pour ce qu'ils prêchaient qu'ils souffraient. Lorsque George Fox fut incarcéré à la prison de Derby en 1650, après avoir prêché dans l'église à clocher à une grande lecture, le mandat d'écrou indique que son offense consistait à énoncer et propager plusieurs opinions blasphématoires. En 1659, Gilbert Lattay se rendit à l'église à clocher de Dunstan, dans l'Ouest, où prêchait le célèbre d'Hermenton. À la fin du sermon, Gilbert Lattay s'adressa à l'Assemblée au sujet de certaines erreurs dans le sermon de Menton, pourquoi il fut saisi par un constable et conduit devant un magistrat qui, toutefois, laissa G. Lattay parler pour sa défense. L'exposé qu'il fit satisfit le juge, et celui-ci répondit qu'il avait entendu dire que les gens qu'on appelait Quakes étaient une sorte de fous fantasques. « Mais, dit-il, pour cet homme, il parle très raisonnablement, et pour ma part, je pense que vous n'auriez pas dû l'amener devant moi. » À quoi le constable répondit, « Monsieur, je le pense aussi. » Cela se produisit 11 ans après la première visite de G. Fox dans une église à clocher, et pendant ce temps les amis avaient beaucoup souffert pour avoir parlé dans ces lieux. Pourtant, ici, un magistrat déclare que parler raisonnablement après que le prédicateur a fini dans une église à clocher n'est pas une offense pour laquelle on doive amener un homme devant lui. Mais le ministère des amis frappait au cœur même de tous les systèmes hiérarchiques, et la découverte de ce fait poussa les prêtres à requérir l'aide du pouvoir civil pour réprimer la diffusion de vues si opposées à la domination ecclésiastique. Astérisque l'auteur oublie que ces premiers Quakers recevaient l'ordre du Seigneur d'aller dans ces églises à clocher et de dénoncer les faux prophètes. Un homme doit-il refuser l'ordre du Seigneur par crainte d'être impoli ou d'être certainement emprisonné? Un homme charnel ne peut comprendre à quel point les faux prophètes sont tenus en mépris par Dieu, et l'on n'épargnait donc aucune correction verbale, surtout lors d'un débat en présence d'autres auditeurs qui auraient pu être induits en erreur. Mettez-vous en bataille contre Babylone tout autour. Vous tous qui tendez l'arc, tirez sur elle, n'épargnez aucune flèche, car elle a péché contre le Seigneur, JR 50:14. Lorsque John Bunyan fut envoyé pour la première fois dans une église à clocher, avant de parler, il fut trop poli et laissa le prêtre finir son sermon et partir. Il rapporte « La colère et le déplaisir du Seigneur, dans sa parole, jaillirent terriblement dans mon cœur, et un cri terrible était en moi, venu du même, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. » Cette exigence du Seigneur d'aller dans une église à clocher, une maison supposément dédiée au Seigneur, a été totalement mal comprise par des Quakers non régénérés de 1750 jusqu'à aujourd'hui. Usage ou non, impoli ou non, légal ou non, passible d'emprisonnement ou non. Si le Seigneur dit « va et dispute avec les faux prophètes », comment cela pourrait-il être refusé? Certains ministres ont dit que, même s'ils prêchaient un autre évangile, les Quakers devraient les laisser tranquilles, en citant l'Écriture. Alors Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et il ne nous suit pas, et nous le lui avons interdit parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse aussitôt parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » MC 9, 38-40. Mais ceux qui faisaient des miracles au nom de Jésus ne prêchaient pas une autre formule de salut, ni un autre évangile, ils faisaient des miracles en son nom, chassaient des démons. De plus, Paul a dit, « Si quelqu'un vous prêche un évangile autre que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, Galates 1:9, et car il y a beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs, surtout parmi les circoncis, il faut leur fermer la bouche, eux qui renversent des maisons entières, enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux, TT 1:10-11. Ils prêchaient pour de l'argent, contre les commandements de Christ, de Pierre et de Paul. Faire des miracles au nom du Christ ne nuit pas à l'œuvre du Christ, mais prêcher un faux salut ou un faux évangile nuit de manière incommensurable à l'œuvre du Christ. L'arrivée d'un si grand nombre de ministres en Nouvelle-Angleterre durant l'été 1657, et plus particulièrement les visites de Mary Clark à Boston, et de Christopher Holde et John Copeland à Sandwich et à Plymouth, ainsi que le succès marqué qui accompagna leurs travaux dans la propagation de leurs principes, causèrent un degré d'alarme et d'agitation non négligeable parmi ceux qui s'efforçaient d'assurer la suprématie totale de l'orthodoxie puritaine dans ce pays. La sécurité et la liberté que le Rhode Island offrait aux persécutés et aux bannis de tout pays, y compris aux pauvres amis bannis et traqués, irritaient vivement les dirigeants de l'Église et de l'État au Massachusetts. À leurs yeux, c'était un mal d'une telle ampleur et si lourd de danger pour le véritable intérêt de la religion pour laquelle eux et leurs pères avaient souffert, qu'il exigeait des mesures de contraction d'un caractère très décidé. Les commissaires des colonies unies, prêtant une oreille attentive aux suggestions de l'intolérance, résolurent d'exercer leur pouvoir et leur influence pour atteindre l'objectif désiré, et si possible, contraindre les autorités du Rhode Island à s'unir aux autres colonies de la Nouvelle-Angleterre pour expulser les Quakers de leur territoire. Au début du 7e mois 1657, une assemblée générale de ce corps eut lieu à Boston, au cours de laquelle, conformément à leur dessein, on prépara la minute et la lettre suivante à l'intention du gouverneur du Rhode Island, 12 septembre 1657. Les commissaires, étant informés que plusieurs Quakers sont arrivés cet été au Rhode Island et y sont accueillis, ce qui peut s'avérer dangereux pour les colonies, ont jugé bon de faire connaître leur avis au gouverneur de ce lieu, comme suit. Messieurs, nous supposons que vous avez compris que l'année dernière une compagnie de Quakers est arrivée à Boston, sans autre motif que de répandre leur opinion pernicieuse, si toutefois ils n'avaient pas été empêchés par le prudent soin du gouvernement qui, par l'expérience qu'il avait d'eux, étant sensible aux dangers qui pourraient menacer la religion chrétienne ici professée si l'on permettait à de tels gens d'être reçus ou de demeurer dans le pays, présenta la question aux commissaires lors de leur réunion à Plymouth, lesquels, à cette occasion, que vous éloigniez ces Quakers qui ont été reçus, et qu'à l'avenir vous leur interdisiez de venir parmi vous, à quoi la règle de la charité envers vous-même et envers nous le concevons vous oblige. Et en cela, si vous le faites, nous espérons que vous ne manquerez pas. Néanmoins, nous ne pouvions que vous signifier ce désir, et déclarer en outre que nous estimons qu'il sera de notre devoir de considérer sérieusement quelles dispositions Dieu peut nous appeler à prendre pour prévenir le mal susdit, et pour notre plus ample conduit, et dire. Nous n'avons pas davantage à vous importuner pour le moment, sinon pour vous assurer que nous désirons demeurer vos amis et voisins affectionnés, les commissaires des colonies unies. Boston, le 12 septembre 1657, la lettre des commissaires, ayant été reçue par le gouverneur de Rhode Island, fut par lui présentée à la « Cour of Trial », tenue à Providence, le 13 du mois 8e suivant. Il était du désir de ce corps de maintenir des relations amicales avec toutes les implantations de la Nouvelle-Angleterre, mais agissant de concert avec la loi de leur colonie, que nul ne soit tenu pour délinquant pour sa doctrine, ils résolurent qu'aucun colon ni étranger, dans les limites de leur juridiction, ne serait persécuté pour quelque opinion religieuse qu'il pût soit professer, soit enseigner. La Cour of Trial, cependant, désirant éviter toute collision immédiate avec ses voisins, jugea préférable de retourner aux commissaires une réponse prudente, les informant que le sujet ferait l'objet d'un examen plus approfondi lors de leur propre assemblée générale, qui devait se réunir au début de l'année suivante. La réponse, bien qu'elle parle des doctrines des amis comme tendant à l'absolue ruine et au renversement des relations et du gouvernement civil parmi les hommes, ce qui est généralement reçu, ce qui ne se rapportait qu'à leur témoignage contre la guerre astérisque admettait manifestement que, bien que plusieurs eussent visité la colonie et que certains eussent reçu les doctrines qu'ils prêchaient, les autorités civiles n'avaient aucune plainte à formuler contre eux. L'Assemblée générale de Rhode Island, à laquelle il est fait allusion, se réunit au 1er mois 1658. La communication des commissaires des colonies unies, alors portée à leur examen, aboutit à la préparation de la réponse suivante, asterisque je soupçonne l'auteur de faire une supposition erronée en considérant que ces Quakers rendaient témoignage contre la guerre. Au lieu de cela, certains Quakers résidant sur place avaient probablement refusé de porter les armes dans la milice. Mais lorsque ce livre fut écrit, 200 ans plus tard, en 1845, les Quakers prêchaient contre la guerre leur supposé « témoignage de paix ». Témoigner contre la guerre n'était pas préconisé par George Fox ni par d'autres anciens Quakers des débuts. Le témoignage de Fox et des premiers Quakers contre la guerre fut écrit dans une lettre au roi Charles, parce que les autorités craignaient les Quakers comme source possible de révolution armée, ils se limitaient à leur propre refus d'employer la force contre l'homme, image de Dieu. Je doute que ces Quakers prêchassent de déposer les armes, car c'est une décision individuelle de conscience qui doit s'accomplir dans la croissance spirituelle d'une personne seulement lorsque le Seigneur révèle une telle exigence. Voir submission pour plus de détails sur la raison pour laquelle cela devrait être laissé à la conscience de l'individu, après que Dieu a changé et instruit chaque individu. En Angleterre, il y avait beaucoup de soldats et de marins qui devinrent Quakers et continuèrent à servir leur pays. Assurément, en Nouvelle-Angleterre, il existait une menace perçue venant des nombreuses tribus d'Indiens et ou des pirates. Fox envoya plus tard une lettre confirmant que même si un Quaker était convaincu de ne pas combattre, il serait attendu qu'il serve comme guetteur contre les intrusions de forces hostiles. William Penn avait entendu Thomas Lowe prêcher à plusieurs reprises avant de rejoindre la société. Alors qu'il était en Irlande, il entendit de nouveau Lowe prêcher et rejoignit, ayant déjà assisté à plusieurs réunions en Irlande, un soldat entra dans l'une des réunions des Quakers et fit grand tapage, sur quoi William Penn alla vers lui, le prit au collet et l'aurait jeté dans l'escalier, n'eût été l'intervention d'un ou deux amis qui prièrent William de le laisser, lui disant que les Amis étaient un peuple pacifique et ne voulaient pas qu'aucun trouble fût causé. C'est une preuve solide que les premiers Quakers ne prêchaient pas contre la guerre ni une paix extérieure, laissant cela à la conscience individuelle. De plus, au moment où il faillit jeter le soldat dans l'escalier en Irlande, Penn n'avait pas encore rencontré George Fox. Récemment convaincu de la vérité, il alla trouver Fox et lui demanda s'il devait continuer à porter son épée. Fox répondit « Porte-la aussi longtemps que tu le peux ». Plus tard, rencontrant Penn sans l'épée, Fox dit « William, où est ton épée ?»« Oh, répondit Penn, j'ai suivi ton conseil. Je l'ai portée aussi longtemps que j'ai pu. » Fox avait délibérément laissé au Christ le soin de dire à Penn quand cesser de porter son épée, ce qu'il fit effectivement, de l'Assemblée générale au commissaire des colonies unies. « Honorables messieurs, il a été présenté à notre attention, par notre honorable président, une lettre datée du 25 septembre dernier, souscrite par les honorables messieurs, commissaires des colonies unies, concernant une compagnie de gens récemment arrivés en ces parties du monde, communément connus sous le nom de Quakers, qui sont généralement tenus pour pernicieux, soit intentionnellement, soit du moins en effet allant jusqu'à corrompre les bonnes mœurs, troubler la paix commune et les sociétés des lieux où ils naissent ou se rendent, etc. Or, attendu que la liberté des diverses consciences, à protéger contre toute contrainte, fut le principal fondement de notre charte, tant eu égard à notre humble requête pour l'obtenir qu'au vrai dessein du honorable et renommé Parlement d'Angleterre en nous l'accordant, liberté que nous estimons encore comme le plus grand bonheur que les hommes puissent posséder en ce monde. Par conséquent, pour la préservation de notre paix et de notre ordre civil, nous prendrons d'autant plus sérieusement garde à ce que ces gens, et tous autres qui sont ici ou qui viendront. Et dans le cas où les dix gens, appelés Quakers, qui sont ici ou qui s'élèveraient ou viendraient parmi nous, refuseraient de se soumettre à l'accomplissement de tous les devoirs susdits, tels que l'entraînement, la veille et autres engagements qui incombent aux membres des sociétés civiles, pour la conservation des dites sociétés dans la justice et la paix. Alors nous déterminons oui, et nous résolvons, quoi qu'il en soit, de saisir la première occasion d'informer notre agent résident en Angleterre, afin qu'il puisse humblement présenter l'affaire, touchant les comptes. Et nous sommes aussi d'autant plus encouragés à adresser nos requêtes au Lord Protecteur, pour Son Altesse et le gouvernement susdit, que nous comprenons qu'il y a, ou qu'il y a eu, beaucoup d'esdits gens autorisés à vivre en Angleterre, oui, jusque dans le cœur même de la nation. Et ainsi, avec nos remerciements sincères pour le soin honorable des honorables messieurs, commissaires des colonies unies, pour la paix et le bien-être de tout le pays, comme il est exprimé dans leur lettre très amicale, nous prenons pour l'instant congé et demeurons, les vôtres, très affectueusement, désireux de l'honneur et du bien-être de vos seigneuries. John Sandford, greffier de l'Assemblée générale de la colonie de Providence Plantation, au très honorable John Endicott, gouverneur du Massachusetts, a communiqué aussi au honorable commissaire des colonies unies lors de leur prochaine réunion, c. La réponse de l'Assemblée générale de Rhode Island était exactement celle qu'on pouvait attendre d'hommes éclairés sur la question de la liberté religieuse et la référence particulière qu'ils font à la liberté des diverses consciences comme étant le principal fondement de leur charte, manifestent leur désir d'imprimer dans l'esprit des dirigeants du Massachusetts combien ils chérissaient ce privilège. L'absence de toute chose ressemblant à une réponse aux sentiments qui dictèrent le message du Massachusetts et l'effet probable de leur réponse en suscitant envers eux un sentiment hostile, les conduisirent sans doute à faire, comme ils le firent, référence au fait d'être gracieusement pris sous protection par l'Angleterre. Il est évident qu'ils voulaient faire entendre que, si l'on recourait à des mesures coercitives, on solliciterait l'assistance du Commonwealth, et le parallèle qu'ils tracent entre leur propre situation et celle de la mère patrie, en se référant au fait que les Amis sont autorisés à vivre en Angleterre au cœur même de la nation, était significatif de leur espoir que, le cas échéant, cette assistance ne serait pas demandée en vain. L'Assemblée générale de Rhode Island, sentant la particularité de sa position en étendant la tolérance aux Quakers à l'intérieur de ses frontières, jugea opportun de mettre son représentant en Angleterre au fait des circonstances. L'extrait suivant d'une lettre qui lui fut adressée à ce sujet montre encore davantage la manière dont il considérait la communication des commissaires. L'an dernier, nous vous avons fort chargé de besogne, à cause de certaines personnes trop réfractaires parmi nous. À cet égard, nous avons fait appel à vous pour votre avis, afin d'en obtenir une manifestation plus publique vis-à-vis de nos supérieurs. Mais nos renseignements, semble-t-il, ont fait défaut du fait de la grande perte du navire, que l'on croit ici avoir fait naufrage. Nous avons maintenant une nouvelle occasion, suscitée par un vieil esprit, à cause d'une sorte de gens, appelés du nom de Quakers, qui sont venus parmi nous et ont suscité plusieurs personnes, qui paraissent à présent être de leur esprit, ce dont les colonies alentour semblent s'offenser à notre égard, parce que les dix gens ont leur liberté parmi nous, étant acquis dans nos maisons ou dans nos assemblées. Et pour le moment, nous n'avons aucune juste raison de les accuser de rupture de la paix civile, seulement, ils vont constamment parmi ceux qui nous entourent, et les vexent et les troublent au sujet de leur religion et de leur état spirituel, bien qu'ils reviennent pour cela avec maintes vilaines cicatrices sur leur corps. Et l'offense que nos voisins prennent contre nous, c'est que nous ne prenons pas quelques mesures contre les dix gens, soit pour les expulser de chez nous, soit pour user contre des mêmes procédés qu'eux-mêmes, qui craignent que leur religion ne soit corrompue par eux. Au sujet de ce mécontentement qu'ils paraissent éprouver, il nous a été exprimé dans une lettre solennelle, écrite par les commissaires des colonies unies lors de leur séance, comme s'ils voulaient nous amener à agir selon leurs mesures, ou bien prendre quelques voies pour nous faire un plus grand déplaisir. Dont nous vous avons envoyé 6 juin une copie, où vous pourrez percevoir comment ils s'expriment. De même, nous vous avons envoyé 6 juin notre réponse présente, afin de vous donner toute la lumière possible sur cette affaire. Il y a une clause dans leur lettre qui implique clairement une menace, quoique exprimée de manière couverte. Monsieur, voici notre demande pressante et actuelle en cette matière. Comme vous pouvez le percevoir dans notre réponse aux colonies unies, nous nous réfugions, pour tout ce qui touche aux civils, auprès de son Altesse de l'Honorable Conseil, n'étant soumis à nul autre dans les affaires de notre état civil. Ainsi, puisse-t-il vous plaire de garder l'œil et l'oreille ouverts, au cas où nos adversaires chercheraient à nous saper dans les privilèges qui nous ont été accordés, et de plaider notre cause de telle sorte que nous ne soyons pas contraints d'exercer quelque pouvoir si. Revenant à Christopher Rold et John Copeland, que nous avions laissés à Rhode Island après leur expulsion de Plymouth, nous les trouvons, vers le milieu du 7e mois 1657, se dirigeant vers le nord jusqu'à Salem, au sein de la colonie du Massachusetts. Dans ce voisinage, ils tinrent des réunions et firent des convertis aux doctrines qu'ils prêchaient. Se référant ensuite à cette visite, ils s'expriment ainsi. Ayant obtenu miséricorde de Dieu et ayant été baptisés dans son alliance Jésus-Christ, nous leur avons prêché librement les choses que nous avions vues et entendues, et que nos mains avaient touchées, lesquelles, comme une parole greffée, prirent place en eux, telle qu'elle ne peut jamais être arrachée, de sorte que nos auditeurs, en peu de temps, devinrent nos compagnons de souffrance. Le premier jour, le 21 du 7e mois, ils se rendirent au lieu de culte puritain de Salem, et, après que le prêtre eut terminé, Christopher Rold ressentit un appel religieux à s'adresser à l'assemblée. Ici pourtant, comme à Moses Vineyard, on ne le laissa pas poursuivre, l'un des commissaires, avec une grande fureur, se saisit de lui et, le tirant en arrière par les cheveux, lui enfonça violemment un gant et un mouchoir dans la bouche. Samuel Shattuck, qui devint plus tard convaincu, en voyant la conduite furieuse du commissaire, et craignant que l'ami ne fût étouffé, intervint, et prenant la main du dirigeant irrité, la détourna. Shattuck, bien qu'homme de bonne réputation, dut souffrir sévèrement pour avoir montré sa bonté à l'étranger, étant envoyé le lendemain, prisonnier avec les deux amis à Boston. La marche suivie par les autorités de Boston envers les étrangers fut de les examiner séparément, afin de les prendre en contradiction, et, à cette fin, Bellingham et le secrétaire, accompagnés de l'ancien et du diacre du lieu, rendirent visite aux prisonniers. Mais, remarquèrent les amis, nous demeurant dans la vérité, qui n'est qu'une, nous dîmes une même chose, de sorte qu'ils n'avaient aucun avantage contre nous, et ne pouvaient se saisir de rien de ce que nous avions dit. Les inquisiteurs, toutefois, ne voulant pas reconnaître que leur labeur était entièrement perdu, déclarèrent que leur réponse était trompeuse et que le diable leur avait appris beaucoup de subtilité. Quelques heures après cet entretien, Christopher Rold et John Copeland furent introduits en présence du gouverneur et des commissaires, et après avoir subi un examen frivole, ils furent condamnés, en vertu de la loi contre les Quakers, à recevoir 30 coups de fouet. La manière brutale dont la sentence fut exécutée était conforme à l'esprit qui avait poussé les dirigeants à faire passer cette loi cruelle. On utilisa à cette occasion un fouet noué à 3 lanières, et le bourreau, pour s'assurer davantage de ses coups, mesura son terrain, puis porta ses coups de toutes ses forces. 30 coups ainsi infligés, comme on l'imagine aisément, laissèrent les victimes misérablement déchirées et lacérées, et dans cet état, on les transporta dans leurs cellules. Là, sans aucune literie, ni même de la paille pour s'y étendre, le geôlier inhumain les garda pendant 3 jours sans nourriture ni boisson, et dans cette demeure lugubre, souvent exposés à l'humidité et au froid, ces hommes fidèles furent enfermés pendant l'espace de 9 semaines. Nous pouvons nous étonner que, sous de telles cruautés aggravées, leur vie ait été épargnée, mais celui pour la sainte cause duquel ils souffraient ainsi, était proche pour les soutenir et les consoler. Son ancienne promesse s'accomplit dans leur expérience, et ils se réjouirent de la présence réconfortante de sa puissance vivante. Car vous avez été appelés à cela, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pie 2:21 Samuel Shattuck, qui fut incarcéré sous l'accusation d'être un ami des Quakers, fut relâché après avoir fourni une caution de 20 livres, pour répondre à l'accusation au tribunal suivant, et ne pas s'assembler avec aucun de ceux qu'on appelle Quakers à leur réunion. Lawrence et Cassandra Southwick, un couple âgé et respectable de Salem, qui avait hébergé les deux messagers de l'Évangile, furent également arrêtés sous une accusation semblable. Lawrence, étant membre de l'Église puritaine, fut relâché pour recevoir sa punition sous forme de censure ecclésiastique. Cassandra, qui depuis longtemps s'était dissociée des pères pèlerins, tant en doctrine qu'en culte, et qui n'était donc pas justiciable de leur discipline, fut contrainte d'expier son offense par un emprisonnement de 7 semaines dans la prison de Boston. Richard Doudney, qui quitta le navire au WO-12 à New Amsterdam, fut actif durant plusieurs semaines dans ce voisinage. Il dirigea ensuite sa route vers Rhode Island et, reprenant sa marche vers le nord, entra au Massachusetts. Au début du 9e mois, il atteignit Dedham, où, étant reconnu à son langage comme Quake, il fut appréhendé et promptement conduit devant les autorités à Boston. Moins de 3 heures après son entrée dans ce lieu, il fut soumis à un cruel fouet de 30 coups, puis envoyé partager le sort de ses amis dans la prison de Boston. On supposera facilement que la conduite tenue par les prêtres et les pouvoirs dirigeants du Massachusetts envers les amis du suscité dans l'esprit de nombreux colons au cœur droit un degré considérable de préjugé contre eux. Les vues déformées des doctrines Quake, que l'on faisait circuler avec zèle à travers la Nouvelle-Angleterre pour justifier les cruautés pratiquées, ne pouvaient guère manquer de produire un tel résultat. Dans les colonies américaines, comme en Angleterre, la calomnie et la dénaturation étaient trop généralement des armes favorites des ennemis de la nouvelle société. Dès une date très ancienne, il avait été d'usage chez les amis, afin de rectifier l'opinion publique au sujet de leurs principes, de publier des déclarations de leur foi chrétienne, et Christopher Old et John Copeland estimèrent juste d'adopter cette démarche pendant leur emprisonnement à Boston. Le document qu'ils publièrent, dont une copie imparfaite a été conservée, est d'autant plus intéressant qu'il est, croit-on, la première exposition écrite des vues doctrinales de la société, et que, contenant des preuves nettes de la solidité des vues des premiers Quakers, il est d'une valeur accrue. Richard Doudney, exhortant ses amis emprisonnés, apposa également sa signature à la déclaration. Il y a peu de doute que ce document soit le papier d'exhortation mentionné par l'historien Sewall. Il est comme suit une déclaration de foi et une exhortation à y obéir, publiée par Christopher Old, John Copeland et Richard Doudney pendant leur emprisonnement à Boston en Nouvelle-Angleterre, 1657. Attendu qu'il est rapporté par ceux qui n'ont pas de frein à leur langue, que nous, que le monde appelle Quakers, sommes des blasphémateurs, des hérétiques et des imposteurs, et que nous nions les Écritures et la vérité qu'elles contiennent. Par conséquent, nous qui sommes ici en prison déclarons en peu de mots, en vérité et en simplicité, à tous ceux qui pourront voir ceci le fondement de notre religion, et la foi pour laquelle nous combattons, et la cause pour laquelle nous souffrons. Ainsi, lorsque vous lirez nos paroles, que l'Esprit doux règne, et pesez-les dans la balance juste, et tenez-vous hors du préjugé, dans la lumière qui juge toutes choses, et mesure et manifeste toutes choses. Mais toutes choses péchées réprouvées sont rendues manifestes révélées par la lumière. Car tout ce qui révèle est lumière. F5.13 Quant à nous, nous croyons au seul vrai Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait les cieux et la terre, la mer et toutes les choses qu'ils contiennent, et qui soutient toutes les choses qu'il a créées par la parole de sa puissance. Lui qui, à diverses reprises et de diverses manières, a parlé jadis à nos pères par les prophètes, mais qui, en ces derniers jours, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde. Ce Fils est ce Jésus-Christ qui est né de la Vierge, qui a souffert pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification, et est monté au plus haut des cieux et siège à la droite de Dieu le Père. C'est en lui-même que nous croyons, lui qui est le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Et c'est en lui seul que nous mettons notre confiance pour le salut, par le sang duquel nous sommes lavés du péché, par qui nous avons accès au Père avec assurance, étant justifiés par la foi en croyant en son nom. Lui qui a envoyé le Saint-Esprit, à savoir l'Esprit de vérité, qui procède du Père et du Fils, par lequel nous sommes scellés et adoptés comme fils et héritiers du royaume des cieux. C'est de cet Esprit que les Écritures de vérité ont été données, comme, dit l'apôtre Pierre, des saints hommes de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Les Écritures ont été écrites pour notre avertissement, nous sur qui la fin des siècles est venue, et elles sont utiles à l'homme de Dieu, pour reprendre, exhorter et avertir, selon que l'Esprit de Dieu les lui apporte, les ouvre en lui et lui en donne l'intelligence. Et le monde passe et disparaît, avec ses désirs et ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. 1 Jean 2, 17. Ces hommes avaient été transférés des ténèbres dans le royaume, et le monde avait disparu à mesure qu'ils entraient dans une dimension différente de conscience et de vision, ne marchant plus à la lumière du soleil et de la lune, mais marchant à la lumière de Dieu, leurs ténèbres étant devenues comme le soleil de midi. Ainsi, avant toute chose, nous déclarons que nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, selon qu'ils sont dans les Écritures, et nous reconnaissons les Écritures comme une véritable déclaration du Père, du Fils et de l'Esprit, dans lesquelles est déclaré ce qui était au commencement, ce qui était présent et ce qui devait venir. Par conséquent, vous tous en qui il y a de la droiture, tenez-vous tranquilles et considérez. Ne croyez pas ceux qui disent « répandez » et nous répandrons, qui disent « venez, frappons-les de la langue », mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. De nouveau nous disons « prenez garde de croire et d'ajouter foi au bruit, car sachez que la vérité en tous âges a été contredite, et que ceux qui vivaient en elle furent, en tous les âges du monde, haïssent, persécutés et emprisonnés, sous les noms d'hérétiques, de blasphémateurs, et ici une partie du papier est arrachée, et l'on ne peut savoir, par un lambeau inintelligible, que 14 lignes sont perdues. » Nous lisons de nouveau comme suit « Tournez-vous intérieurement vers Christ la lumière, qui vous montre les secrets de vos cœurs et les œuvres qui ne sont pas bonnes. Par conséquent, tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin d'être des enfants de la lumière, car à mesure que vous l'aimez et lui obéissez, elle vous conduira à la repentance, vous amènera à connaître celui en qui il y a rémission des péchés, en qui Dieu prend plaisir, qui vous donnera une entrée dans le royaume de Dieu, un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. » Car tel est le désir de nos âmes pour tous ceux qui ont le moindre soupir après Dieu, qu'ils viennent à le connaître en acte et en vérité, et trouvent sa puissance en oser avec eux pour les garder de tomber, et les présenter irréprochables devant le trône de sa gloire, lui qui est la force et la vie de tous ceux qui mettent leur confiance en lui, lui qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, lui qui est Dieu sur toutes choses, béni à jamais.
Amen.
Ainsi nous demeurons amis de tous ceux qui craignent le Seigneur, qui souffrent non pour avoir fait le mal, mais pour avoir rendu témoignage à la vérité, dans l'obéissance au Seigneur Dieu de vie. À lui nous confions notre cause, lui qui s'est levé pour plaider la cause de l'innocent, et pour aider celui qui n'a aucun secours sur la terre, lui qui se vengera de tous ses ennemis, et qui rendra aux orgueilleux qui font le mal. Christopher Hold, John Copland Richard Doudney depuis la maison de correction, le 1er du 8e mois 1657, à Boston. Pour une compréhension complète des opérations de la lumière dans l'homme, voir le témoignage de la lumière de George Fox. En outre, Christopher Hold et John Copland préparèrent un document montrant à quel point l'esprit de persécution manifesté en Nouvelle-Angleterre était contraire à la teneur du Nouveau Testament, avec un avertissement à ceux qui s'y abandonnaient. Ce papier offensait grandement les magistrats. Le malveillant, Endicott, dit aux prisonniers qu'il méritait d'être pendu pour l'avoir écrit, et s'il avait eu le pouvoir d'exécuter ses désirs, la poutre de la potence sur le Boston Common eut, selon toute probabilité, bientôt mis fin aux travaux de ces braves hommes. Dans leur haine des doctrines Quakers, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur étaient résolus à étouffer toute manifestation de celle-ci dans le Massachusetts, et ils décidèrent que ceux qu'ils avaient emprisonnés dans la prison de Boston devraient sentir tout le poids de leurs mains. Dépassant les limites de leurs lois existantes, cruelles qu'elles fussent, ils ordonnèrent que tous les amis alors en prison soient sévèrement fouetté deux fois par semaine, la peine devant commencer à 15 coups et augmenter de 3 à chaque application successive de cette sentence dégradante. Aussi sévère que fut la loi du Massachusetts de 1656 contre les Quakers, ses promoteurs trouvèrent, à leur déception et à leur effroi, qu'elle échouait à atteindre son but. Les dirigeants de Boston, avec Endicott à leur tête, poussés aveuglément par leur animosité envers la nouvelle secte, résolurent d'essayer l'effet de mesures encore plus sévères, et lors de leur cour au 8e mois 1657, firent passer la loi suivante. En supplément au récent ordre concernant la venue ou l'introduction de quelques membres de la maudite secte des Quakers dans cette juridiction, il est ordonné que quiconque dorénavant amènera ou fera amener directement ou indirectement quelques Quakers ou Quakers connus ou autres hérétiques blasphémateurs dans cette juridiction, toute telle personne encourra la confiscation de la somme de 100 au profit du pays, et sera sur mandat de tout magistrat incarcéré pour y demeurer jusqu'à ce que l'amende soit pleinement satisfaite et payée. Et sera incarcéré jusqu'à ce que les confiscations soient pleinement satisfaites et payées. Il est en outre ordonné que si quelque Quaker ou Quakers présume, après avoir déjà subi ce que la loi requiert de revenir dans cette juridiction, tout Quaker mâle, pour la première offense, aura une oreille coupée et sera maintenu au travail dans la maison de correction jusqu'à ce qu'il puisse être renvoyé à ses propres frais. Pour la seconde offense, il aura l'autre oreille coupée et sera maintenu à la maison de correction comme ci-dessus. Et toute femme Quake qui a subi la loi ici et qui présume de revenir dans cette juridiction sera sévèrement fouettée et gardée à la maison de correction au travail jusqu'à ce qu'elle soit renvoyée à ses propres frais, et de même pour sa nouvelle venue, elle sera traitée comme ci-dessus. pour tout Quake, homme ou femme, qui offensera une troisième fois, on leur percera la langue avec un fer rouge, et ils seront gardés à la maison de correction, au travail étroitement surveillé, jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés à leurs propres frais. Il est en outre ordonné que tous et chacun des Quakes surgissant parmi nous soient traités et subissent la même peine que la loi prévoit contre les Quakes étrangers. Edward Rawson, secrétaire Boston, le 14 jour d'octobre 1657, les procédés barbares et illégaux d'Endicott et de Bellingham, ordonnant que les amis emprisonnés soient fouettés deux fois par semaine de la manière décrite, soulevèrent de vives protestations parmi de nombreux habitants de la ville, qui sentaient que de si cruelles indignités répugnaient également à l'humanité et à la justice. La compassion ainsi excitée envers les souffrants obtint leur libération, et le 24 du 9e mois, ils obtinrent leur élargissement. La loi qui avait été promulguée le mois précédent leur fut alors lue, puis ils furent bannis de la colonie, à l'exception de Cassandra Southwick, à qui l'on permit de retourner chez Ella Salem. Outre Christopher Hold, John Copeland et Richard Doudney, nous constatons que Mary Clark fut bannie en cette occasion. Humphrey Norton, qui débarqua du navire de Robert Fowley à Rhode Island, paraît avoir été occupé dans cette colonie durant les 6e et 7e mois, et le mois suivant, dans les limites de la colonie de Plymouth. En entrant dans cette dernière, il se rendit à Sandwich, où il travailla au ministère parmi ceux qui étaient maintenant devenus ses compagnons de profession. Cependant, on ne le laissa pas longtemps en paix. Un mandat fut lancé contre lui sur l'accusation vague d'être une personne extravagante, et il fut arrêté et conduit à Plymouth. Ayant été retenu, là un temps considérable sans examen, Humphrey commença à craindre que la cour alors siégeante ne s'ajournât sans l'entendre, il envoya donc ce bref message au magistrat. « Puisque vous m'avez appréhendé publiquement comme un malfaiteur, et que vous m'avez maintenu prisonnier contrairement à la loi, à l'équité et à la bonne conscience, je vous requiers d'un examen public, et si je suis trouvé coupable, d'être publiquement puni, sinon d'être disculpé. » Les magistrats firent donc amener le prisonnier devant eux. Plusieurs d'entre eux montrèrent un sentiment de modération, sauf le gouverneur, qui entreprit une attaque contre les doctrines des amis, niant que la lumière qui éclaire tout homme soit suffisante pour le salut. Mais Humphrey Norton lui montra, par la déclaration des Saintes Écritures, que la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, et que Christ avait dit « Ma grâce te suffit ». Le gouverneur lui demanda alors si les Écritures n'étaient pas la règle de vie et le fondement de la foi. Astérisque, il répondit que c'était seulement par la foi en Jésus-Christ, le grand auteur et consommateur de notre foi, et la vraie règle et le vrai guide de la vie, que les Écritures pouvaient rendre sage pour le salut. Incapables de le convaincre d'aucune infraction à leur loi, ils le condamnèrent néanmoins au bannissement. Ayant été conduit par les officiers sur 50 milles en direction de Rhode Island, il se rendit dans cette colonie, dans les limites de laquelle il travailla pendant quelques mois à l'œuvre de son grand maître. Vers la fin de l'année, il passa à Long Island, et arrivant au 12e mois à Southold, il fut arrêté et conduit à New Haven, dans le Connecticut, où il fut lourdement enchaîné et emprisonné pendant 21 jours, et nonobstant la rigueur de la saison, on lui refusa également l'usage tant du feu que de la chandelle. Nous aurons occasion de revenir sur ses souffrances ultérieures à New Haven. Astérisque, les Écritures ne sont ni la règle ni le fondement de la foi. Si les Écritures sont votre fondement de foi, votre foi est dans un livre. Il vous faut une foi dont Christ lui-même est l'auteur, une foi qui vient de l'entendre vous parler et de reconnaître qu'il est votre Dieu. La foi vient d'entendre la parole de Dieu, non de quelqu'un lisant un livre. La foi n'est pas l'assentiment à un témoignage historique, la foi consiste à entendre sa voix du ciel et à reconnaître que c'est la voix de Dieu. Et les Écritures ne peuvent être votre règle, Christ doit être votre règle. Voir l'excellent écrit de James Parnell sur ce sujet. James Parnell, fait ministre de Christ à 16 ans, fut le premier de centaines de Quakes à mourir en prison à l'âge de 19 ans. C'était et c'est une différence fondamentale entre la foi des protestants et celle des premiers Quakers. Ce refus de la Bible comme source et règle de la foi amena beaucoup à calomnier les Quakers, disant qu'ils ne croyaient pas aux Écritures. Les Écritures témoignent de Dieu, accepter le témoignage de Dieu n'est pas recevoir Dieu. Vous ne pouvez pas donner votre cœur à Jésus avec des mots ou des vœux. Il doit être pris, pouce par pouce, dans un combat de l'Esprit Saint contre l'Esprit de Satan, l'Esprit d'autosatisfaction en chaque homme. Cela n'arrive qu'en demeurant dans la parole vivante au-dedans pour devenir libre, en demeurant dans la lumière pour produire le fruit de l'Esprit, amour, paix, joie, douceur, bonté, patience, foi, bienveillance, mansuétude, douceur. Selon George Fox, dans son écrit The Way to the Kingdom, l'Église, le corps de Christ, des vrais croyants est la colonne et le fondement de la vérité, rassemblée par la puissance éternelle qui était avant la lettre la Bible, et tous ceux qui sont dans cette Église, comme elle est appelée par le monde, et vivent dans la compréhension de la lettre Bible, et la part terrestre étant encore debout, il y a de la diablerie dans vos esprits, et de la mondanité, et de l'orgueil, et de la souillure. Si vous écoutez cette lumière dans votre conscience, elle vous le fera voir, et tant que cela demeure, tel dont le sacrifice n'est pas accepté de Dieu, et les louanges, tant que la nature demeure, Dieu ne les accepte pas, ce qui est celui de Caïn, auquel Dieu n'a aucun égard, mais seulement à celui d'Abel. Fox, dans sa lettre concernant la parole, dit encore, « Vous de ceux qui vivez dans la première nature, ne connaissant pas la parole de Dieu, mais seulement la lettre n'ayant de connaissance que de la Bible, vous crucifiez le juste, et vous vous élevez à la place du juste, éteignant la lumière en vous, avec la tromperie se transformant à la place du juste, comme Caïn fit lorsqu'il tua son frère Abel. Il se plaça à la place de son frère et dit, « Suis-je le gardien de mon frère ? Ainsi, vous tous qui crucifiez le juste, vous êtes comme Caïn, car c'est le juste que Dieu accepte la seconde naissance. Comme vous le lisez, le sacrifice de Caïn ne fut pas accepté de Dieu, mais celui d'Abel la seconde naissance, Dieu l'accepta car il était juste. Caïn tua Abel parce que les œuvres d'Abel étaient justes, et celles de Caïn étaient mauvaises. Maintenant vous tous qui êtes dans la première naissance, vous êtes Caïn dans l'envie meurtrier, et Dieu n'accepte pas votre sacrifice. Maintenant tous ceux qui viennent à la parole, viennent à avant que Caïn fût. » William Brant, qui, soit dit en passant, était une personne âgée, après avoir débarqué avec ses compagnons à Rhode Island, paraît avoir limité ses travaux d'évangile à cette province jusqu'au 11e mois 1657, lorsque, rejoint par son jeune ami John Copeland, qui n'avait été que quelques semaines auparavant banni de Boston, il partit pour une visite dans la colonie de Plymouth. Ils se rendirent d'abord à Scituate, aujourd'hui Pembroke, où ils rencontrèrent leur compagne de voyage Sarah Gibbon, qui était récemment venu des Nouveaux Pays-Bas devant être renommé New York. À Scituate, il y avait des gens qui se réjouissaient de la diffusion des doctrines annoncées par les amis, et à la maison de James Cudworth, magistrat, les trois ouvriers de l'Évangile furent reçus cordialement. Leur présence dans la colonie troubla de nouveau les dirigeants de Plymouth, et prévoyant que ni Cudworth ni ses collègues magistrats de Scituate ne les poursuivraient, des officiers furent envoyés pour les arrêter. Timothy Radley, un autre magistrat de Scituate, après avoir examiné le mandat des officiers, observa avec signification « M. Envy a obtenu cela » et, de sa propre autorité, refusa de permettre que l'arrestation ait lieu. Ainsi protégés contre leurs ennemis, William Brant et John Copeland poursuivirent leurs engagements religieux sans interruption. Le cœur de Timothy Radley avait manifestement été attendri par l'aurore d'en haut, éveillant son intérêt pour la propagation d'une religion vivante et pour la préservation de ses défenseurs des mains des méchants. Animé de ce sentiment, le digne magistrat, au départ de William Brant et John Copeland, leur fournit le laissez-passer suivant, « Par la présente donc, à tous ceux qui pourraient interrompre ces deux hommes dans leur passage, vous êtes enjoint de les laisser passer tranquillement leur chemin, n'offrant aucun tort à qui que ce soit. » Timothy Radley muni de ce laissez-passer, les deux amis quittèrent Scituate, ayant l'intention de se rendre sans délai aux colonies de Rhode Island et du Connecticut, et, au cours de leur voyage, ils passèrent par Plymouth. En l'apprenant, les magistrats délivrèrent aussitôt un mandat d'arrêt contre eux, qui fut bientôt exécuté. Conduits devant les autorités, on leur demanda de prendre l'engagement de quitter cette juridiction dans les 48 heures. Ils répondirent que c'était précisément dans l'intention de se rendre ailleurs qu'ils poursuivaient leur route, mais qu'ils se sentaient retenus de faire une promesse à cet effet. Cette réponse ayant été interprétée par le tribunal comme une obstination méprisante, les voyageurs furent condamnés à une sévère flagellation. En vain ces hommes persécutés firent-ils valoir leur droit d'anglais à voyager dans toute partie des dominions de leur pays, l'instrument de gouvernement du protecteur fut ignoré par les magistrats persécuteurs. Les dirigeants de la colonie de Plymouth, comme leurs corligionnaires de Boston, constatèrent que leurs efforts pour supprimer le cacrisme étaient vains. Des ministres de la nouvelle société continuaient d'arriver dans leurs limites, et les doctrines qu'ils prêchaient avaient été reçues par beaucoup, qui se réjouissaient de les accueillir dans leur foyer. La noble conduite de Cudworth et de Radley, en protégeant les amis persécutés, contribua grandement à accroître les sombres appréhensions des puritains. Ces signes alarmants de la propagation de la « contagion Quake », ayant retenu la grave attention de la cour de Plymouth, l'amenèrent à promulguer la loi suivante. Attendu que plusieurs personnes sont venues dans ce gouvernement, communément appelé « Quakers », dont la doctrine et les pratiques tendent manifestement à la subversion des fondements de la religion chrétienne, de l'ordre ecclésiastique et de la paix civile de ce gouvernement, comme il ressort des témoignages fournis dans diverses dépositions et autres. Il est donc édicté par la Cour et l'autorité y attachée qu'aucun Quake, ni aucune personne communément ainsi appelée, ne soit hébergé par quelque personne ou personne que ce soit au sein de ce gouvernement, sous peine de 5 livres pour chaque manquement ou d'être fouetté. Et dans le cas où quelqu'un hébergerait une telle personne par ignorance, s'il atteste sous serment qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'eux, il sera exempt de la peine susdite, à condition que, dès qu'il les aura d'abord reconnus comme tels, il les signale au connétable ou à son adjoint. L'adoption de l'ordonnance qui précède nous mène à la fin de l'année 1657, une année mémorable dans les débuts de l'histoire des Amis en Amérique. Outre ceux qui débarquèrent du navire Woodhouse, la Nouvelle-Angleterre fut également visitée vers la fin de cette année par John Roux, William Ledra et Thomas Harry, venant de la Barbade. Il y avait donc, à cette époque, au moins 10 amis qui parcouraient cette province dans l'œuvre du ministère. D'après ce qui a déjà été rapporté, il est évident que l'œuvre à laquelle ils étaient engagés n'était pas d'institution humaine et que, sous la bénédiction divine, les précieuses vérités qu'ils défendaient avaient pris racine et se répandaient dans le monde occidental. Suite des premiers Quakers américains, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.